Bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette table ronde consacrée à la fabrication des idées, la circulation. Et on va donc commencer tout de suite en vous souhaitant tout d'abord quand même une bonne année, puisqu'on est dans la période, et tous nos meilleurs voeux au nom de l'Espace Manès-France pour l'année 2019, sachant qu'on est aussi dans la période qui va commencer bientôt des 30 ans de l'Espace Manès-France. Voilà, vous avez tout un programme. Donc je vais appeler à la table ronde, qui n'est pas ronde, mais c'est pas grave, Christophe Marion, donc, qui est délégué général du Comité des travaux historiques et scientifiques, et Agnès McGillivray, qui est responsable du mécénat, qui vont donc nous parler des sociétés savantes et puis de cet impact de sociétés savantes dans nos territoires.
Voilà, ça fonctionne. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis en effet Christophe Marion, délégué général du CTHS, et je souhaitais vous présenter peut-être pendant ce premier temps d'intervention le Comité des travaux historiques et scientifiques, qui est un institut rattaché à l'École nationale des chartes. Et cet institut a été, dès l'origine, la tête de réseau des sociétés savantes. Alors, il a été créé il y a près de 200 ans, en 1834, par le ministre de l'Instruction publique Guizot, François Guizot, et l'arrêté de création du CTHS reposait sur un rapport remis par Guizot au roi Louis-Philippe, dans lequel il écrivait, et je vais vous lire une petite partie de ce rapport, voilà ce qu'écrivait Guizot au roi Louis-Philippe. « Depuis 15 ans environ, l'étude des sources historiques a repris une activité nouvelle. Des hommes d'un esprit clairvoyant, d'une science rare, d'une constance laborieuse ont pénétré les uns dans le vaste dépôt des archives du royaume, les autres dans les collections de manuscrits de la bibliothèque royale. Quelques-uns ont poussé leurs recherches jusque dans les bibliothèques et archives des départements. Partout, il a été prouvé, dès les premiers essais, en fouillant au hasard, que de grandes richesses étaient restées enfouies. Les efforts ont redoublé et l'on n'a pas tardé à obtenir des découvertes aussi importantes qu'inattendues, de véritables révélations qui éclairent d'un jour nouveau tel ou tel événement, tel ou tel siècle de notre histoire. À ce point qu'il est permis d'avancer que les manuscrits et monuments originaux qui ont été jusqu'à présent mis au jour ne surpassent guère en nombre ni en importance ceux qui sont restés inédits. Au gouvernement seul, il appartient, selon moi, de pouvoir accomplir le grand travail d'une publication générale de tous les matériaux importants et encore inédits de l'histoire, sur l'histoire de notre patrie. C'est là une œuvre toute libérale et digne de la bienveillance de votre majesté pour la propagation de l'instruction publique et la diffusion des Lumières. » On le voit donc à travers ce petit texte, le premier rôle assigné au CTHS, au Comité des travaux historiques et scientifiques, qui fut créé à la suite du rapport dont je viens de vous faire lecture. Le premier rôle du CTHS était donc celui-ci, coordonner le travail de recherche et de publication des documents inédits sur l'histoire de France, des documents capables d'éclairer sous un jour nouveau l'histoire de la nation. C'est tout le sens de l'arrêté de 1834 qui instituait le comité chargé de diriger les recherches et la publication de documents inédits sur l'histoire de France. Or, et c'est là où c'est important, dans l'esprit de Guizot, ce travail ne pouvait être mené sans le concours des sociétés savantes, sans le recours au territoire. Dans une circulaire de 1834 toujours, Guizot écrivait aux érudits membres des sociétés savantes sur les territoires et leur offrait l'encouragement de l'État pour lutter contre l'inertie des sociétés savantes elles-mêmes et pour leur offrir la publicité contre l'indifférence du public. C'est ce qu'écrivait Guizot. Et pour ce faire, Guizot proposait d'instituer entre ces sociétés savantes et le ministère de l'Instruction publique des relations fréquentes et régulières. Évidemment, il précisait, parce qu'on est dans les années 1830, hein, c'est-à-dire qu'on crée l'État-nation, hein, on est en train de créer la France d'une certaine manière, il précisait, Guizot, immédiatement, il ne s'agit pas, messieurs les érudits locaux, membres de sociétés savantes, il ne s'agit pas de centraliser l'histoire de France, il ne s'agit pas d'affaires de pouvoir d'une certaine manière, je n'ai nul dessein de porter atteinte à la liberté, à l'individualité des sociétés savantes, ni de leur imposer une quelconque organisation générale. Voici donc ce qui se passait en 1834. Le gouvernement crée un comité chargé de découvrir et de publier des documents inédits, restés inconnus dans les fonds d'archives. Il lui donnait une mission à ce comité de coordination des sociétés savantes, car ces sociétés savantes étaient considérées comme des institutions incontournables au sein des territoires. des institutions incontournables parce qu'elles connaissaient mieux que quiconque les richesses archivistiques, patrimoniales de leur territoire, des institutions capables de participer à la construction d'une histoire nationale, mais également capables de créer une mémoire locale, une identité territoriale capable, si on voulait être moderne, de dire que ces sociétés, elles étaient jugées capables de s'inscrire dans une stratégie de marque territoriale, on pourrait dire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire véritablement des sociétés savantes capables de créer une mémoire locale, une histoire locale, une marque, d'une certaine manière, locale. Et puis des institutions aussi capables de diffuser de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Je n'insisterai pas là-dessus, mais nous savons aujourd'hui que les sociétés d'agriculture ont joué un rôle essentiel dans la révolution agricole du XIXe siècle en diffusant des nouvelles connaissances agricoles et en faisant en sorte que les paysans locaux eh bien, s'emparent de ces nouvelles pratiques agricoles et favorisent la révolution agricole. Alors, en 1834, l'État s'associait aux érudits locaux à qui on confiait la charge de découvrir de nouvelles archives, de recenser des éléments remarquables du patrimoine local, des érudits à qui on confiait aussi la mission de diffuser de nouveaux savoirs en construction. Alors, j'insisterai peut-être sur un point, c'est finalement cette dimension, cette démarche collaborative, décentralisée, consubstantiel à la création du CTHS. Le comité est pensé dès l'origine comme devant fédérer le travail de sociétés savantes, mobiliser donc pour trouver de nouvelles archives, découvrir de nouveaux éléments du patrimoine, des sociétés savantes qui sont aidées à travers des prix qu'on leur remet pour soutenir leurs actions. Alors bien sûr, on n'a pas inventé en 1830 la science collaborative. Dès la fin du XVIIIe siècle, Condorcet, membre de l'Académie des sciences, faisait appel aux sociétés savantes locales et notamment aux astronomes locaux. Vous savez que pour faire de l'astronomie, eh bien, il vaut mieux avoir des points d'observation un peu partout sur le territoire national. Eh bien, Condorcet, dès la fin du XVIIIe siècle, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, avait mobilisé ce réseau d'astronomes provinciaux pour faire remonter leurs observations à Paris hein, et pour utiliser d'une certaine manière cette science collaborative. Mais j'insiste véritablement sur ce point parce que Condorcet l'a fait, le CTHS a été construit dans cette logique-là en 1834 et finalement c'est un sujet qui est aujourd'hui d'une très grande modernité. Faire appel aux intellectuels locaux pour produire de la matière, produire de la donnée, c'est ce qu'on appelle en anglais le crowdsourcing, hein, c'est-à-dire utiliser la créativité, l'intelligence, le savoir-faire d'un grand nombre de personnes, j'allais dire presque en sous-traitance intellectuelle, pour réaliser certaines tâches, mobiliser des données, mobiliser de l'information. Alors on le voit, il y a une véritable modernité dans la volonté de créer le CTHS dans les années 1830 et une véritable modernité dans cette volonté d'associer les sociétés savantes, actrices incontournables du développement des territoires, développement culturel, éducatif, cela va de soi, mais aussi développement économique. J'ai dit un mot des sociétés d'agriculture. On pourrait aussi parler des sociétés d'émulation du commerce et de l'industrie, qui sont aussi des regroupements locaux, des sociétés savantes qui, au XIXe siècle, vont tenter de favoriser le développement et l'essor de l'industrie sur leur territoire d'installation. Alors, aujourd'hui, je dirais que le rôle des sociétés savantes au sein des territoires, en plein XXIe siècle, reste un sujet d'une très grande actualité. Nous avons organisé cette année à Paris, à Paris, en avril 2018, le 143e congrès du CTHS. Le CTHS organise des congrès depuis les années 1860 à peu près, et nous avons organisé le 143e à Paris. Et au cours de ce congrès, eh bien, Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est venu lors de l'ouverture pour prononcer un discours important qui, à mon sens, dresse une feuille de route à la fois pour le CTHS, mais au-delà pour l'ensemble des sociétés savantes. Je vous lirai quelques extraits assez courts de son discours. Qu'est-ce qu'elle dit, Frédéric Vidal ? Elle dit « La science peut porter les promesses du progrès les plus ambitieuses, mais sans l'adhésion de la société, elles resteront lettres mortes. Le monde de demain, ce qu'il exige de savoir, de créativité, d'esprit critique, n'autorise pas de fracture entre le citoyen et le chercheur. C'est ce dialogue entre la science et, et la société que le CTHS et les sociétés savantes nourrissent, clarifient, facilitent. Et nous en avons grand besoin dans une société qui confond souvent faits scientifiques et fausses nouvelles. Le CTHS, au travers de ses projets d'édition, de production de connaissances, orchestre ces différents passages de témoins du scientifique vers l'érudit, de l'érudit vers le citoyen. Première idée force, première idée importante de la ministre Vidal, le CTHS, les sociétés savantes sont des passeurs de pouvoir. Ils créent du lien entre le scientifique et le citoyen. Ils servent la démocratisation de la science. Et finalement, pour reprendre les mots de Guizot en 1834, elles répandent dans une sphère étendue les fruits de la recherche. Le mot, hein, là, répandre dans une sphère étendue les fruits de la recherche, c'est un mot qu'utilisait déjà Guizot. Deuxième extrait. Du discours de la ministre qui me semble aussi important, les sociétés savantes ne sont pas des clubs fermés ou des salons réservés à une élite. Elles vont désormais au-devant du grand public en suivant de plus en plus la voie numérique. On a des exemples, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les sociétés savantes, mais on a des exemples intéressants. Agnès Maguilivray en dira un mot tout à l'heure. Cette démarche citoyenne et digitale est au cœur d'un renouveau des sociétés savantes, encouragée par le CTHS. Il les accompagne dans leur appropriation des outils numériques et au-delà dans une ambition qui projette définitivement les sociétés savantes vers l'avenir, vers la science participative. En effet, les sociétés savantes de plus en plus associent les citoyens à leurs projets, et c'est très bien ainsi, mettant en pratique cette pensée de Benjamin Franklin qui ne me quitte pas en tant que professeur, c'est Frédéric Vidal qui parle, « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, je retiens ». Donc, véritablement, cette dimension importante de la participation, quand on participe à un projet, on le retient. Donc, deuxième idée force, la dimension participative de la science, des érudits qui participent à des projets de recherche, des érudits qui associent les citoyens à leurs projets. Et j'insisterai peut-être sur ce point. Les sociétés savantes ont fait beaucoup pour la recherche en sciences humaines et sociales, mais également en sciences exactes, depuis le 19e siècle et même au-delà. C'est un fait. Moi, je viens du Vendômois, je suis historien de formation, et quand on veut faire de l'histoire dans le Vendômois, le premier réflexe, c'est d'aller voir le dictionnaire de Saint-Venant, qui est un dictionnaire historique, topographique, biographique, et qui a été réalisé au 19e siècle, et ça reste aujourd'hui encore un outil de base quand on veut faire de l'histoire sur le Vendômois. Donc, elles ont ces sociétés savantes, ces érudits locaux au 19e siècle, joué un rôle absolument fondamental. Ils ont contribué avec leurs articles, avec leurs recherches, à alimenter de très belles monographies historiques, locales ou régionales, qui ont marqué tout le XXe siècle. Ils ont créé des matériaux, des sources, des données grâce auxquelles des historiens, des universitaires ont ensuite pu écrire des grandes synthèses, comparer des situations locales afin de déterminer des points communs ou des différences. Alors évidemment, depuis le XIXe siècle, le contexte il a changé. On a créé le CNRS. Dans les années 40-50, les universités ont pris toujours plus d'importance dans la construction de la recherche scientifique. Dans ce nouveau contexte, la question peut se poser de savoir quelle est la place des érudits locaux, quelle est la place des sociétés savantes dans ce nouveau contexte. Les sociétés savantes ont-elles aujourd'hui toujours les moyens, les capacités, les compétences de porter des projets de recherche, de faire un travail scientifique de qualité, au-delà de la rédaction d'un article pour le bulletin, au-delà de la préparation d'une conférence? Eh bien, à mon sens, pour répondre à cette question, il faut là encore regarder du côté des origines, et notamment des origines de ces sociétés savantes et du CTHS, parce que dès l'origine, elles ont été pensées dans une démarche collaborative et dans une démarche participative. Guizot écrivait, toujours lui, hein, en 1834, « Il faut les associer, donc les sociétés savantes, les érudits locaux, à la vaste entreprise par laquelle le comité a été créé, à savoir les recherches qui seront incessamment entreprises sur tous les points du royaume pour mettre en lumière les monuments inédits relatifs à l'histoire de France. » Et Guizot poursuivait, « Tant de richesses enfouies dans les départements ne peuvent être recueillies que sur les lieux et par les soins des hommes qui sont restés, en quelque façon, les seuls dépositaires des traditions locales. C'est principalement dans cette circonstance que la coopération active des sociétés savantes et de leurs nombreux correspondants pourra fournir beaucoup de lumière, épargner beaucoup de missions spéciales, de temps, de dépenses et concourir puissamment à l'illustration de notre histoire nationale. Donc pour Guizot, en 1834, la force des érudits locaux, elle reposait justement sur leur connaissance fine des richesses de leur territoire. Or, cette connaissance, aujourd'hui encore, elle est fortement recherchée. Je pense à des projets de recherche nationaux portés par l'École pratique des hautes études, notamment portés par l'École nationale des chartes. Alors, le projet auquel je pense de l'École pratique des hautes études, qui est porté par un professeur qui veut mettre en place une base de données recensant au niveau national l'ensemble des armoiries sculptées, pour avoir une base de données nationale où vous pourrez retrouver l'ensemble des armoiries sculptées qui se trouvent dans les églises, dans les cimetières, dans les maisons civiles, dans les châteaux, etc., etc. Eh bien, les porteurs de ces projets sont très désireux d'associer les érudits locaux, justement en raison de la connaissance qu'ils ont de leur territoire. Et quand vous parlez avec un érudit local, un membre d'une société savante, il sait où se trouvent ces armoiries sculptées ou tout autre élément du patrimoine. Et cette connaissance-là, elle est extrêmement aujourd'hui recherchée. Des archives départementales, et je en parlais à midi à l'occasion du temps de préparation de cette table ronde, je pense par exemple à la Vendée, aux archives départementales de Vendée, eh bien ces archives proposent aux sociétés savantes du territoire divers projets au sein desquels elles peuvent s'investir. Ça va être par exemple enrichir une base de données nominative fournissant des dépouillements complets ou amendant une information. On va proposer à ces érudits locaux de contribuer à la rédaction, à la réalisation de dictionnaires encyclopédiques en rédigeant une notice biographique, historique, toponymique. On va les inviter, les généalogistes ont fait ça très bien pendant des dizaines d'années, on va les inviter à traduire des pièces, à transcrire des pièces. Eh bien, ces projets-là, ils permettent, à mon sens, de replacer les sociétés savantes dans une dynamique de recherche. Et c'est aussi une manière d'associer des territoires à des projets de recherche qui sont d'ampleur nationale. Je citais l'exemple à midi du Muséum national d'histoire naturelle. Ils ont, de ce point de vue-là, une véritable longueur d'avance. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de programmes collaboratifs mis en place par le muséum qui permettent à n'importe quel citoyen, avec un peu de formation personnelle, de prendre en photo des insectes pollinisateurs qui se trouvent dans son jardin, qui l'invite à prendre en photo les herbes folles. C'est un programme qui s'appelle les herbes folles, me semble-t-il. Vous savez, ces petites herbes qui poussent dans les interstices des trottoirs, les herbes sauvages, voilà, c'est ça. Les sauvages dans ma rue, le programme se nomme. Vous prenez en photo les herbes folles qui poussent dans les trottoirs, sur les routes, et ça permet ensuite d'alimenter une base de données avec des chercheurs, des scientifiques qui vont pouvoir utiliser ces informations-là pour construire des discours sur l'évolution de la biodiversité, notamment. Le Muséum national d'histoire naturelle forme aussi des citoyens lambda, comme vous et moi, pour partir à la chasse aux météorites. Donc, ils ont une petite valise qui leur permet très vite de différencier une roche terrestre d'une roche extraterrestre. Et donc, on sait, par exemple, que des météorites sont tombées dans tel ou tel endroit. On va lancer ces chasseurs de météorites à la chasse aux météorites. Eh bien, ce type de projet, aujourd'hui, qui concerne plutôt les sciences dites dures, avec le muséum, à mon sens, elles peuvent complètement s'appliquer aux sciences humaines et sociales. Et les sociétés savantes ont probablement un rôle à jouer dans ce domaine-là. Alors, évidemment, pour soutenir ces projets, les actions des sociétés savantes, le CTHS a mis en place depuis une année environ une fondation qu'Agnès McGillivray pourrait vous présenter à présent.
Merci. Donc, la Fondation des travaux historiques et scientifiques a été créée donc il y a un peu plus d'un an par le CTHS, le Comité des travaux historiques et scientifiques, et l'École nationale des chartes. Et elle est abritée par l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, la Fondation a deux ambitions. Encourager la jeune recherche, les travaux des jeunes docteurs, en publiant notamment un livre issu de leurs travaux de doctorat. Et puis, deuxièmement, de favoriser un rapprochement entre la science, les citoyens et les territoires, en soutenant notamment des projets innovants portés par les sociétés savantes, qui sont les actrices incontournables de ce rapprochement entre science et citoyens. À l'avenir, la Fondation pourrait également envisager de soutenir des projets associant des classes de collège ou de lycée, et des sociétés savantes, car rapprocher science et citoyens, ça passe aussi par l'école. La Fondation a donc, pour la première fois cette année, décerné deux types de prix. Donc les prix qui ont récompensé les thèses des jeunes doctorants d'universitaires afin de les aider à s'insérer dans une carrière professionnelle et scientifique. Et les prix destinés aux sociétés savantes qui ont mené une action en faveur de l'histoire, du patrimoine et des actions qui nous ont paru particulièrement remarquables et dignes d'être soutenues par leur caractère innovant dans la diffusion du savoir sur les territoires. Donc cette année, le premier prix des sociétés savantes a été remis à la Fédération des sociétés savantes des Vosges. C'est une fédération qui regroupe 26 sociétés savantes réunies autour de la recherche historique, archéologique et plus généralement scientifique dans le département des Vosges et autour de la valorisation du patrimoine local. Donc la Fédération des sociétés savantes des Vosges avait trois ambitions: mieux faire connaître le patrimoine local et plus particulièrement le petit patrimoine rural, car en effet, ce département aujourd'hui jouit plutôt de sa réputation par rapport aux massifs vosgiens, des sports d'hiver et de la neige, et il voulait un petit peu valoriser le territoire qui était un petit peu laissé pour compte, donc et d'améliorer l'attractivité de ce territoire, en développant justement un tourisme un petit peu plus culturel, porteur de sens, donner une meilleure visibilité de la richesse de ce territoire. Son ambition, c'est également d'intégrer davantage les sociétés savantes dans la vie de la cité, en les faisant participer pleinement à l'élaboration de ce projet novateur. Et puis enfin, ça permet aux sociétés savantes de renouveler aussi leur modèle économique de financement. Donc la Fédération des sociétés savantes des Vosges a créé un projet culturel et éducatif intitulé « Les Vosges au bout des doigts, localiser, documenter, valoriser le patrimoine sur une application mobile ». En partenariat avec la société Wikisto, qui sont les créateurs de l'application et qui est téléchargeable gratuitement. Donc cette application gère une base de données qui est alimentée directement par les sociétés savantes elles-mêmes, en partenariat avec les collectivités territoriales, et qui contient les notices et la localisation d'un certain nombre d'objets patrimoniaux, de sites remarquables. Et elle permet donc de signaler à l'utilisateur de géolocaliser les endroits à visiter, de proposer le chemin pour s'y rendre ou éventuellement un parcours culturel. Donc ce projet a retenu notre attention car il y avait l'aspect numérique qui nous semblait fondamental, et qui permet de toucher un nouveau public, hein, plus jeune et généralement assez éloigné du public habituel des sociétés savantes. Donc c'est un projet qui intéresse également les collectivités territoriales, puisqu'elle permet d'imaginer un tourisme différent. Donc on voit très bien dans cet exemple concrètement le rôle primordial des sociétés savantes dans le développement du territoire, dans la vulgarisation des savoirs et de la redécouverte d'un patrimoine. En France, c'est à peu près 3500 sociétés savantes, composées de 700 000 membres, qui sont aujourd'hui des acteurs de leur territoire. Le deuxième prix, je voulais en dire un mot, puisque c'est assez local, il a été attribué à l'association Les Troglodytes de Mirebeau, donc pas très loin d'ici, pour la publication de leur ouvrage sur le site archéologique de la Tourette de Luché. Donc encore un exemple de mise en valeur d'un patrimoine méconnu et de la diffusion de leur savoir dans le territoire. Mais tous ces projets des sociétés savantes ont un rayonnement beaucoup plus large que le développement touristique du territoire, parce qu'effectivement, ils vont également favoriser le niveau d'éducation et de formation des citoyens du territoire. Ils peuvent également améliorer l'état de santé des habitants en les rendant plus attentifs à leur environnement, plus impliqués dans la sauvegarde du patrimoine naturel, puisque les sociétés savantes, c'est aussi des sociétés naturalistes. Et puis, plus généralement, ce sont des projets qui permettent aux citoyens de s'impliquer réellement dans la vie publique, dans la vie politique, c'est-à-dire d'être réellement acteurs de la vie de la cité. Ensuite, les sociétés savantes sont également donc des acteurs de développement à travers le patrimoine dont certaines disposent et qu'elles mettent en valeur. Donc, j'ai noté quelques exemples. La société de Provins, par exemple, qui dispose de deux monuments historiques, la Tour du Bourreau et la Maison Romane. Et cette dernière est occupée par le musée de Provins et présente les collections municipales et les collections de la société. Ils ont convenu une convention et puis là, ils sont en train de créer une salle qui sera dédiée à la médiation et qui sera co-animée par la ville et par la société. On a l'association de sauvegarde, d'études et de recherche pour le patrimoine naturel et culturel du Centre Var, qui possède aussi une chapelle-musée, qu'elle a restaurée grâce à des financements de groupes d'action locales avec des crédits européens et dans laquelle elle organise des expositions temporaires, des conférences mensuelles. Et puis, il y a des associations comme le Club du Vieux Manoir dans l'Oise qui animent des chantiers de jeunes bénévoles pour la restauration sur toute la France. En 2018, ils ont organisé 30 sessions. Et ils restaurent et ils animent 5 monuments historiques en organisant des activités culturelles, ludiques, éducatives. Donc on voit par ces exemples très concrets sur le terrain vraiment combien les sociétés savantes aujourd'hui sont pleinement actrices du développement de leur territoire et ont toute leur place au sein de la cité, auprès et avec les citoyens. Voilà.
Voilà, c'était vraiment une petite introduction, mais maintenant on est à votre disposition.
Merci. Donc, des questions dans la salle ou des demandes de précision qui veut... Moi, j'aurais une question, peut-être pour lancer un peu les questions. L'état des sociétés savantes dans l'ex-Poitou-Charentes et dans la Nouvelle-Aquitaine, comment ça se passe ?
Alors, sur le nombre précisément, on peut très facilement, hein, à partir du site internet, vous avez ce qu'on appelle un annuaire des sociétés savantes qui va vous donner une idée du nombre. Hein. Vous pouvez faire une sélection en fonction de la ville, du département, de la région, etc. Mais évidemment, être inscrit dans l'annuaire ne donne pas beaucoup d'informations sur la vitalité, sur le dynamisme de la société en question. Le mouvement qu'on voit, et aujourd'hui ça s'est fait dans la région, alors Occitanie, c'est ça ? Les régions qui ont fusionné, il y avait deux fédérations régionales qui ont décidé de se réunir pour ne faire plus qu'une. Et ça, c'est le cas donc en Occitanie. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas avoir entendu la même chose sur une région comme la Nouvelle-Aquitaine. Mais à mon sens, aujourd'hui, l'avenir des sociétés savantes passe par ces fédérations régionales. Parce que les problématiques sont tellement importantes aujourd'hui, que ce soit la crise du recrutement, qui concerne beaucoup d'associations, d'ailleurs, hein, pas seulement les sociétés savantes, mais c'est quand même une population vieillissante, qui peut avoir aussi du mal à se renouveler en termes d'activité. Pour un projet qu'Agnès présentait de la Fédération des sociétés savantes des Vosges, qui est un projet très innovant, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de l'aider financièrement, hein, beaucoup de sociétés savantes restent à l'étape du bulletin, de l'article et éventuellement de la conférence mensuelle ou hebdomadaire même pour certaines. Et évidemment, ce n'est pas des modes d'action qui aujourd'hui invite des jeunes, notamment, à venir s'impliquer. Donc, les fédérations, elles ont un rôle de guide à jouer, et le CTHS est là pour les aider aussi, hein, en mettant, en proposant des actions réussies, des types d'actions réussies, et d'où Agnès insistait là-dessus, et c'est important, d'où l'idée cette année de mettre en place un prix qui récompensera un projet associant une société savante et un établissement scolaire. Primaire, collège ou lycée, de manière à les obliger d'une certaine manière, mais elles sont très volontaires, hein, d'ailleurs, pour un grand nombre d'entre elles, à diversifier leurs partenariats et à aller vers des publics qu'elles connaissent moins, d'une certaine manière.
J'ajouterais même, si vous permettez, que compte tenu du nouveau découpage avec la fameuse loi NOTRe des territoires, je pense qu'il serait intéressant de regarder à l'échelle des communautés de communes et des communautés d'agglos. Nous, c'est ce que nous essayons de faire à l'espace Manescence, de rassembler un petit peu les actions, ce qui ne veut pas dire que tout se passe au chef-lieu de la communauté de communes ou de l'agglo, mais on peut, ensuite, il y a une cohérence, une coordination qui peut exister.
Mais alors, pour les Vosges, en l'occurrence, hein, ça a permis à la Fédération des sociétés savantes des Vosges de revenir vers les élus en disant « on ne vous demande pas d'argent, une subvention de fonctionnement, mais on a un projet ». Un projet qui est de développer le tourisme de nos territoires en apportant sur Wikisto, sur cette application de géolocalisation, en apportant une information scientifique de qualité. Vous allez y trouver une petite présentation, mais aussi de la vidéo, des images anciennes, des photographies. Et évidemment, les élus, il y a un certain nombre de communautés de communes des Vosges qui ont répondu présent parce que ça donne une autre image de la société savante. Hein, et c'était aussi ça l'ambition que nous avions.
Merci pour ces précisions. Je crois que c'est très important par rapport à cette logique créativité territoire, précisément. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Allez-y, si vous voulez.
Alors, peut-être, on parlait tout à l'heure des conseils de développement qui sont... des structures, des sortes de CESR, alors de conseil économique et social, hein, c'est ça, les conseils économiques et social au niveau des régions, des conseils de développement au niveau des grandes agglomérations. Moi, j'incite vraiment à la fois les élus, mais aussi les sociétés savantes à se rapprocher pour créer aussi à des niveaux locaux où on n'a pas forcément les moyens qui permettent de réunir un conseil de développement, mais pour utiliser ces sociétés savantes comme des sortes de structures pourvoyeuses d'idées, d'une certaine manière, parce qu'elles peuvent, à mon sens, avoir des idées d'évolution d'urbanisme, d'évolution des plans locaux d'urbanisme qui passent maintenant au niveau intercommunal. Et ces fusions de communes, ces mises en place de grandes intercommunalités, on perd parfois un peu la notion du territoire et la notion de la proximité. Hein. Moi, je viens d'un territoire où on est passé d'une communauté de communes de 12-15 communes à 66 communes. Donc évidemment, avec plusieurs dizaines de kilomètres qui séparent les unes des autres. Donc évidemment, on perd un peu la notion de proximité. Je crois que ces sociétés savantes, elles peuvent apporter cette notion de la proximité, de la micro-identité locale d'une certaine manière. Et je crois que si on ne prend pas en compte cette dimension-là, le vin a très bien réussi à prendre en compte cette dimension-là en ayant des micro-terroirs. Hein, l'INRA travaille sur cette notion de micro-terroir en disant que finalement, quand on produit du vin à 3-4 km, parfois même quelques centaines de mètres, ce n'est pas le même vin qu'on produit. Donc, ils ont réussi à faire passer cette idée-là. Je crois que la notion de proximité, elle est vraiment indispensable pour réussir un projet de développement. Hein.
Vous avez tout à fait raison. Et en même temps, la connaissance même du territoire, de son histoire, de son passé, mais aussi pour se projeter vers l'avenir, c'est évidemment très important, savoir que on verra d'ailleurs tout à l'heure avec un cas très concret d'un territoire voilà, qui nous est cher en Expertou-Charente, mais je parlais tout à l'heure de Mauléon, on ne comprendra rien à Mauléon et à Bressuire si on n'a pas un regard historique sur ce territoire, c'est évident. Mais ça, c'est la difficulté aussi de rapprocher les élus de la connaissance. Ben, parfois, c'est un peu difficile. Mais on a entrepris, nous, une croisière, si j'ose dire, c'est qu'on rencontre systématiquement désormais les communautés de communes. On les invite à venir passer 2h30 ici avec nous. Et on a commencé avec la Gâtine et avec le Loup du Nez. Voilà. Mais on va continuer. Le Mélois peut être candidat. Voilà. D'autres des questions, des remarques? Sinon, vous, de toute façon, vous restez avec nous. Donc, évidemment, il peut y avoir toutes des questions à tout moment vous concernant aussi. Je vais appeler Pascale Motura, donc historienne de l'art, archéologue de formation. Mais je lui laisserai le soin de se présenter. Puis en même temps, je la rassure, hein, c'est des regards décalés. Donc n'hésitez pas, hein, lâchez-vous.
Oui, merci, monsieur Deniel. Effectivement, quand vous m'avez invité à participer à... Ah, il y a le micro. Il faut le placer juste comme ça. Ah oui, d'accord, ça marche mieux. Effectivement, quand vous m'avez invité à participer à cette table ronde, je me suis interrogée, je me demandais si j'étais légitime aujourd'hui, puisque je suis, comme la société, je dirais, je suis dans une phase de transition. Donc je m'explique, j'ai un parcours de 25 années dans le domaine de l'ingénierie culturelle. Alors l'ingénierie culturelle, il y a une acception assez large, j'ai l'impression, concernant ce métier, mais... Pour ce qui est de mon parcours, cela recouvrait mise en valeur du patrimoine, développement culturel, accompagnement d'associations, et j'ai également beaucoup travaillé dans le conseil, dans le domaine du mécénat. Mais aujourd'hui, je ne viens pas représenter un organisme. Alors, j'avais ma propre structure. Bon, moi, j'ai suspendu mon activité pour me consacrer à l'écriture. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, certes, pour ce qui était de mon métier, je pourrais aussi vous faire toute une présentation correspondant bien au thème du jour, c'est-à-dire circulation de la pensée, partage de la connaissance, vu que toutes mes missions, si vous voulez, favorisaient la transversalité des connaissances sur un territoire. Et moi-même, quand je travaillais par exemple sur la mise en valeur d'un monument, je travaillais avec des architectes très spécialisés, des paysagistes, des économistes de la construction, etc. etc. Donc il y avait déjà entre nous, si vous voulez, des passages de savoir-faire.
Et puis sur les territoires eux-mêmes, là je citerai particulièrement mes missions de gros dossiers pour le ministère de la Culture, de labellisation ville et pays d'arrêt d'histoire, qui sont des très longues missions où il y avait deux parties. D'abord un recueil, un récollement, si vous voulez, de tout le patrimoine matériel et immatériel. Et puis après, il fallait monter tout un programme d'action, un vrai projet autour de tout ça. Et là, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on pouvait constater, c'est que tous les services, environnement, tourisme, culture, etc., ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et finalement, ce que je constatais, c'est qu'il fallait vraiment, à un moment donné, qu'il y ait une vision commune impulsée, qu'il y ait un projet qui réunisse tout le monde. Et ils en étaient toujours ravis. Donc on organisait des réunions, et c'est vrai que eux-mêmes, ils disaient, mais bon sang, ça fait des années qu'on travaille les uns à côté des autres, et qu'on ne partageait pas tout ça. Voilà. Alors ça, c'est, je dirais maintenant, pour moi, c'est le passé. Je ne sais pas si un jour je reprendrai mon activité. En tout cas, là, j'ai un petit peu suspendu parce que j'avais besoin d'avoir du temps pour lire et donc un peu pour écrire. Alors, pourquoi écrire ? Alors, parce que moi, je suis motivée par une transmission assez large. Actuellement, donc, je fais mes gammes, enfin, depuis quelques temps, sur Agoravox. J'écris des chroniques qui sont plutôt littéraires, mais je pars d'un fait d'actualité. Et j'en tire des réflexions, enfin, tant que faire se peut, hein, modestement, j'en tire des réflexions qui sont un peu atemporelles. C'est-à-dire, je pars vraiment de l'actualité, j'essaie de tirer des réflexions un peu, bon, presque philosophiques, mais petitement, à mon petit niveau. Et pourquoi la littérature ? Alors, déjà, j'écris dans Agoravox parce que j'aime bien la notion de vulgate. Moi, j'aime bien l'idée de capter des infos, de les digérer et puis de les redonner, tout simplement de redonner. Et moi, j'aime Agoravox parce qu'en fait, c'est l'Agora, c'est vrai. Alors, il y a un comité de lecture, hein, de sélection, tout le monde ne peut pas écrire non plus ce qu'il veut là, mais on n'est pas coupé, c'est-à-dire on peut faire des textes très longs. Moi, j'ai fait des chroniques qui faisaient 8-9 pages, personne ne m'a demandé de les couper, alors que ça n'existe pas, je pense, sur les autres supports, Huffington Post, ou tout ce que vous voulez, où on vous traite un peu comme des journalistes. En fait, il faut quand même répondre à un nombre de signes précis. Et moi, je n'aime pas être cadrée. J'aime qu'on me laisse entièrement libre. D'ailleurs, aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Denieux, je viens vraiment pour une expression totalement libre. Voilà. Donc, j'aime bien cette idée de vulgate. Et pourquoi je me tourne vers la littérature ? Parce que tout ce que j'ai fait en termes de développement culturel, c'était vraiment un credo. Moi, je croyais, entre guillemets, parce que ça me fait bien rigoler, les gens qui se prennent pour des change makers, comme ils disent, c'est-à-dire ceux qui prétendent changer le monde. Mais je pensais, oui, que c'était bien d'aider à ce qu'une pensée, enfin que l'humanité évolue de plus en plus, et j'avais envie d'apporter ma toute petite pierre à tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne me suffit plus, l'ingénierie culturelle, vraiment plus. Et donc, pourquoi la littérature ? Alors, je vais vous citer deux phrases qui pour moi, très récentes, d'Edgar Morin et de Pierre Rosanvallon, qui synthétisent et résument tout à fait ma pensée. Pierre Rosanvallon qui dit « La littérature est vitale, c'est un instrument de connaissance sensible de la société. » Et Edgar Morin qui a écrit « La seule chose qui montre l'être humain dans sa subjectivité, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses relations avec autrui, dans son contexte sociologique, historique et social, c'est la littérature. La littérature n'est pas seulement un art, mais un mode de connaissance. » Voilà, c'est ce que je pense absolument. Donc voilà. Donc j'écris actuellement, je me suis lancée dans l'écriture d'un roman. Ça me paraît très prétentieux de dire tout ça, parce que vous voyez, aujourd'hui, ça me paraît même un peu tôt d'en parler, parce que d'abord, c'est un roman qui me demande beaucoup de recherche historique. Imaginez-vous, ça va traiter un petit peu de Molière. Je fais réapparaître Molière de nos jours, et Molière a un avis sur la société actuelle. Donc je ne sais pas si vous voyez le niveau d'ambition que je me suis donné, la pression que ça me donne. Mais bon, j'y vais, on verra bien la suite. Alors, j'en reviens à mes chroniques qui, elles, existent. Et M. Daniel m'avait repéré pour ma chronique critique des conférences TED. Voilà, donc j'ai été assez... voilà. Ah, d'accord. Alors, j'ai été assez mordante, effectivement. Et c'est ma chronique la plus lue. Elle atteint 21 000, je ne sais plus. Enfin bon, c'est assez... moi, alors là aussi, je parlais tout à l'heure un peu de ce que je pense des émetteurs et des récepteurs. C'est-à-dire, pour moi, c'est celle qui est la plus lue. Or, pour moi, ce n'est pas ma chronique la plus importante. Parce que j'écris toujours des chroniques sur des thèmes de société, des choses qui m'importent. Donc, la marchandisation de l'eau, les personnes âgées dépendantes, maladie d'Alzheimer, des choses qui m'ont touchée très personnellement. Voilà, j'écris... beaucoup sur l'écologie. Je suis contre l'industrialisation de la viande, donc plutôt végétarienne. Donc j'écris des choses là-dessus. Ça me paraît bien plus important comme thème que les conférences TED. Mais les conférences TED, il faut en parler. Parce que justement, j'en reviens à cette idée de personnes qui se prennent pour des change, enfin ce mot ridicule de change makers, et qui prétendent changer le monde en 18 minutes réglementaires. Donc j'ai fait en sorte de démonter le mécanisme des TED, qui pour moi, c'est du spectacle, c'est un show. Donc, si vous en avez envie, vous lirez la chronique. Je ne vais pas aujourd'hui la paraphraser, c'est pas le but. Mais ce sont des conférences qui font appel à toutes les ficelles de la communication visuelle et qui, en fait, c'est du théâtre, c'est du spectacle. Et ce sont des soliloques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dialogue, c'est du one-man show. Voilà, on est dans le spectacle absolu. Et moi, ce que je trouve regrettable dans les conférences TED, c'est qu'on prend des personnes qui... Alors, il y a tous les niveaux hein, des speakers, mais bon, il y a des gens qui sont des scientifiques très renommés, etc. Et on leur demande de faire une présentation très égotique. Je trouve ça très regrettable. Bon. Donc voilà, ça, c'est une des chroniques que j'ai faites. Mais on est complètement dans le thème d'aujourd'hui, parce que les TED prétendent effectivement œuvrer beaucoup au partage de la connaissance, quoi, pour que le monde change. Or, on est dans la société du spectacle telle que Guy Debord l'avait totalement pressenti. D'ailleurs, je termine ma chronique sur quelques extraits du livre de Guy Debord, parce que ça me paraît très intéressant. Lui qui disait « Nous voulons que les idées redeviennent dangereuses ». Et j'ai écrit, ben oui, nous aussi. Et or, ce n'est pas avec les conférences TED qu'on va, je pense, transformer ce qui se passe sur cette planète. Bon, enfin, ça, c'est... voilà, j'ai écrit, en tout cas, ce que j'avais à dire là-dessus. Alors maintenant, pour ce qui est du partage de la connaissance, moi, si je dois, mais vraiment, c'est à titre très, très personnel, dire ce que j'en pense de tout ça, j'estime qu'en France... l'aménagement culturel du territoire est vraiment plutôt une réussite. Il n'y a pas un territoire où une personne, jeune ou âgée, ne puisse pas, si elle a envie d'apprendre, ne puisse pas trouver une bibliothèque, une médiathèque ou un musée. Enfin, il y a des établissements extrêmement performants à proximité, avec du personnel extrêmement bien formé. Donc en France, on a vraiment... Et tout ça étant d'accès sur le plan financier, c'est vraiment accessible à tous, quoi. Donc, pour moi, le problème... Et puis, il y a l'Internet. Alors, ça, on en parlera. Quelqu'un qui veut vraiment apprendre aujourd'hui, tout le monde peut être vraiment autodidacte et atteindre un très bon niveau de connaissance dans certains domaines. Donc, les émetteurs existent. Moi, pour moi, le problème, c'est plutôt la question de la réception de tout ça, parce que dans ce monde de la post-vérité, où comme, alors je citais les conférences TED, on est dans un monde avec Internet, etc., où finalement l'émotion a pris le pas sur les faits, enfin sur la réalité, et ce qui est le plus, et avec toutes les fake news, enfin voilà, c'est le monde de la post-vérité. Il faut plutôt s'interroger sur comment plutôt arriver à trier. De nos jours, voilà, c'est ça. Pour moi, la pensée, elle circule. Mais on est surchargé, saturé d'informations et d'informations souvent néfastes qui ne nous apportent rien du tout, qui envahissent notre cerveau pour rien. Or, moi, ma vraie réflexion, c'est comment se vider de tout ça, comment faire le tri, quel prisme mettre en place, comment faire un bon tri de tout ça. Elle est plutôt là, pour moi, la question, que comment faire qu'il y ait encore plus de connaissances qui circulent, si vous voulez. Donc, c'est cette question des récepteurs, parce que la connaissance, elle existe, mais il faut être outillé. Il faut soi-même être parfaitement outillé pour décrypter tout ça. Or, c'est plutôt là donc, que ça se passe pour moi. Et être outillé, pour moi, eh ben, moi, je vais vous dire où j'en suis dans ma réflexion dans tout ça. C'est qu'il ne faut pas toujours penser que c'est l'autre qui va vous apporter donc, la connaissance, la réflexion. Il y a déjà le livre ouvert de la nature qui est à observer. Je pense qu'il faut qu'on sorte un peu effectivement des écrans, etc., qu'on soit beaucoup plus dans l'observation. réellement, mais d'une petite graine. Je vous assure, ça paraît idiot de dire ça, mais on parle beaucoup aujourd'hui de méditation, de tas de choses. Moi, je pense que l'observation est bien plus importante. Ça vous apporte bien plus de choses. Et surtout, je crois beaucoup que nous possédons tous un livre intérieur. Et qu'en fait, faut déjà apprendre à lire ce livre intérieur. Donc, en ce moment, par exemple, je relis beaucoup Héraclite d'Éphèse, qui lui disait qu'il n'avait été l'élève de personne. Mais il disait, il faut s'étudier soi-même et tout apprendre par soi-même. Donc, c'est le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu ». Donc, je crois beaucoup à ça, vous voyez, ces allers-retours entre le livre intérieur, savoir observer la nature, et après, oui, aller prendre de la connaissance là où elle existe. Et elle existe, elle est diffusée partout. Elle est même donc trop diffusée, mal diffusée. Voilà. Alors après, j'aurais peut-être des choses à dire sur l'Internet, la culture libre, etc. Mais ça peut venir au niveau de questions. Bon, je ne sais pas. Peut-être parce que je ne sais pas si j'ai pas déjà été un peu trop longue.
Non, voilà. C'est parfait comme ça, et on peut prendre un temps pour les questions. Est-ce qu'il y a justement, par rapport à ce que vous avez dit, des questions ou des observations? Oui, vous présentez en même temps, c'est juste pour l'enregistrement. Hein,
donc Aude Baranger, Maison du protestantisme Poitevin. C'est vrai qu'effectivement, au niveau de la diffusion d'informations qui est faite à l'heure actuelle, c'est qu'on est beaucoup aussi dans une époque où on zappe. En fait, on voit l'information, une information en chasse une autre. Et pour retenir l'attention sur un sujet précis, important, etc., c'est assez complexe. Et les gens, est-ce qu'ils se sont laissés piéger par cette société de zapping, ou est-ce qu'ils sont conscients, enfin des choses comme ça? C'est vrai que c'est juste une observation, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement qui se diffusent qu'on ne sait plus quoi croire.
Exactement.
On est où chercher. Même il y en a tellement, c'est que on est tellement noyé qu'on n'arrive plus des fois à retrouver la source même de l'information. Même je vois parfois par rapport aux journées du patrimoine, comme je fais parfois aussi la saisie sur les journées dans le Mélois. Et en relation aussi avec la DRAC, en fait, il y a des sites annexes qui mettent des informations qui sont fausses.
Oui, parce que les gens du patrimoine,
il
y a le programme officiel et un peu le off. J'ai participé. Je connais bien le problème.
C'est compliqué de faire relayer parfois ces informations. Ouais.
Tout à fait. Mais moi, j'aime bien votre idée de le problème, c'est aussi le zapping. C'est pour ça que je lutte, moi, contre tout. Parce que, bon, les conférences TED, en fait, pour moi, c'est un peu l'exemple type, mais en fait, c'est les plus connus, puis ça se diffuse mondialement, si vous voulez. Mais il y a tous ces autres forums. Mais d'ailleurs, même aujourd'hui, je me suis dit, je vais un peu taquiner M. Deniol de nous dire, vous avez vos 15 minutes de présentation et on passe les uns après les autres. Mais tous ces forums où des gens viennent comme ça, 10 minutes, et puis après, on passe à autre chose. Ça passe parfois même du coq à l'âne. Encore aujourd'hui, il y a un thème précis. Mais c'est ça qui est regrettable, quoi. L'attention ne se pose pas. Et surtout, on ne retient pas l'essentiel. Moi, encore aujourd'hui, on n'est pas dans le spectacle. Mais moi, ce que je reproche à donc tous ces colloques, forums, c'est que ça joue beaucoup sur l'émotion. Comme la télévision, vous voyez, c'est toutes ces émissions que je ne regarde pas d'ailleurs, mais je sais à peu près ce qui s'y passe. Non, écoutons plutôt France Culture, etc. Heureusement, il y a tous les podcasts. Il y a quand même encore de l'essentiel qui est diffusé. Mais j'en reviens au fait qu'il faut d'abord avoir sa boîte à outils, avoir construit sa propre boîte à outils pour être capable d'aller vers l'essentiel. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et moi, je ne sais pas comment aider vraiment des jeunes qui sont fascinés effectivement par des infos qui leur arrivent. Et eux, très souvent, ils ne font pas le tri, je pense. Et voilà, c'est absolument ça. C'est comment aiguiser l'esprit critique. Alors moi, je vais essayer à travers des romans, etc. Parce que, comme je l'ai dit, je crois beaucoup à la force de l'écrit. Moi, pour moi, la force de l'écrit, on est beaucoup trop dans une société donc de l'image, de la vidéo, etc. Et pour moi, rien ne vaut l'écrit. Parce qu'une pensée, moi je vois des chroniques, il faut les étayer, et puis une fois que c'est écrit, moi-même j'y vois beaucoup plus clair sur ce que je pense. Donc écrivez, il faut que c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde.
Non, mais le TEDx, je vais juste vous dire une petite anecdote, parce que comme je vous disais, c'est la première qui va avoir lieu à Poitiers, je crois que c'est en janvier, et c'est dans la presse aujourd'hui ou hier, oui. Hein, vous la regarderez, on dit en quelque sorte, Poitiers entre dans la modernité, voilà le premier TEDx qui arrive à Poitiers, vous voyez. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que le symbole est intéressant à analyser quand même. Oui. Et il y a une autre question.
Oui, tout à fait.
Oui. Donc, Christophe Marion,
toujours du CTHS, hein, depuis à peu près encore trois quarts d'heure. Non, je voulais juste rebondir sur cette question du zapping, en fait, parce que c'est aussi des choses que j'entends de la part des sociétés savantes qui, comme je le disais, ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. Quand elles recrutent de nouveaux membres, c'est des membres qui restent un peu, éventuellement un an, deux ans, et puis qui partent faire autre chose. Et ça me rappelle un échange que j'avais eu avec une collègue qui était élue à Chartres et qui avait été surprise de la mobilisation d'un certain nombre de citoyens autour de platanes qui allaient être détruits sur une place à Chartres. Et elle m'avait dit, mais c'est incroyable, on a une mobilisation extraordinaire de gens qui ne sont pas du tout habitués à la politique locale, que ça n'intéresse pas, et qui vont réussir à se mobiliser 6 mois, 1 an autour d'un projet. Et puis une fois que ce projet arrivera à terme, les platanes auront été abattus ou sauvés, hein, ça dépend, eh bien ils repartiront faire autre chose, et ils se réengageront éventuellement dans une autre cause, ou peut-être pas d'ailleurs. Et elle me disait, l'idéal serait de réussir à mobiliser ces gens-là pour les prochaines élections municipales, pour qu'ils s'inscrivent sur des listes, enfin, pour qu'ils s'inscrivent, voilà, pour qu'ils décident de transformer cet engagement ponctuel en engagement un peu plus permanent. Mais ça, elle n'avait pas la solution pour ça. Et les sociétés savantes, aujourd'hui, c'est un peu le discours que j'essaie de leur tenir, à savoir, construisez, faites des projets, proposez des projets, vous aurez des gens qui vous rejoindront, probablement pas dans la durée, parce que peut-être que cette époque-là, elle est révolue, malheureusement. Vous aurez toujours des gens qui décideront de s'engager dans une société savante, qui resteront 10 ans, 15 ans, qui seront des fidèles, qui viendront présidents, secrétaires, etc. Mais vous aurez l'immense majorité des gens qui viendront peut-être un an ou deux autour d'un projet qui les intéressera, et puis qui repartiront faire autre chose, et puis qui reviendront peut-être 5 ou 10 ans plus tard. On peut le regretter, hein, parce que ça nécessite de se remettre en cause beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus durement. Ça nécessite de réinventer toujours des choses un peu nouvelles. C'est un travail de chien, mais aujourd'hui, je ne vois pas d'issue, sinon à regretter une période révolue.
Vous voulez réagir ?
Non. Non, 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 je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Oui, je me présente, donc Michel Marc, et je suis un des responsables nationaux des universités populaires en France et ancien président de l'université populaire du Berry. J'ai bien compris dans votre intervention que vous regrettiez d'une certaine manière que les gens ne fassent pas plus preuve d'esprit critique. Ça a d'ailleurs été redit tout à l'heure. Beaucoup de gens, face à la masse d'informations, ont de la peine à hiérarchiser cette information. Ceci dit, je trouve que les choses ne sont pas forcément si faciles à dire. Bien sûr, on peut invoquer le rôle de l'école qui doit apprendre à apprendre, plutôt que de diffuser directement des connaissances. C'est une partie du rôle. Mmh. Il faut apprendre à apprendre, donc développer l'esprit critique, apprendre à hiérarchiser, faire le tri. Pour autant, je répète, les choses ne sont pas si faciles. Vous pouvez vous infuser sur Internet 10 ou 15 pages de sites et vraiment les lire, sans trouver matière à croiser suffisamment les informations pour vous faire une idée des choses, parce que certains sites sont difficiles à trouver, relèvent de l'ultra-spécialité, et moi je crois beaucoup au croisement des sources pour se faire une opinion. Quand j'ai croisement des sources, je veux dire que le recours à Internet me semble essentiel, bien entendu. Le recours à l'écrit, au papier, ne me semble pas du tout obsolète. Mais aussi le recours à tout ce qui se passe en présentiel, participer à des séminaires, à des colloques ou à des choses comme ça, où des spécialistes vont vous mettre sur la piste d'un certain nombre de sites que vous n'auriez même pas eu idée de chercher, ne serait-ce que parce que vous n'avez pas le mot-clé qui va déclencher l'accès au site. Donc, je trouve que ça justifie complètement le rôle de ce qui se passe ici à l'espace Mendès France, d'ailleurs. On est en plein là-dedans, et ça me semble quelque chose de tout à fait essentiel. C'est aussi ce qu'on essaye de faire dans les universités populaires, d'une certaine manière. C'est un rôle un peu ingrat, parfois. C'est difficile, mais je crois beaucoup à ces croisements de regards et à cette multitude des sources d'accès.
Alors là, je suis totalement en phase avec vous et vous soulignez un problème oui, très important. Il faut avoir une très grande exigence personnelle, croiser les sources, parce que face à l'Internet, où on sait très bien où il y a ces algorithmes qui vous orientent, et même surtout les réseaux sociaux, tout le monde le sait maintenant, qui vous confortent dans votre opinion, ils ne vous envoient que les informations, ils ne vous guident que vers les sites qui vont aller conforter ce que vous pensez déjà. C'est pour ça que tout ce que je dis, enfin, je ne suis pas la seule à le dire, loin de là, c'est d'autant plus crucial aujourd'hui, parce qu'il faut lutter contre ça, effectivement, il faut se déconditionner de tout ça, c'est un travail, et c'est pour ça que je parle d'une vraie exigence intérieure. Si vous n'avez pas cette exigence-là, bah vous êtes porté, vous devenez vraiment un pion entre les mains des GAFA, de toutes ces sociétés privées qui orientent la pensée aujourd'hui, clairement. Enfin, bon, donc il faut, je trouve effectivement, l'Internet c'est un des outils, mais si vous ne croisez pas immédiatement avec, si vous n'allez pas en bibliothèque, dans les archives, bon ben... Vous n'aurez jamais accès à la... De toute façon, on n'a jamais accès à la connaissance totale, hein, mais il faut l'approcher, en tout cas. Et c'est un effort, ce n'est pas donné. C'est ça. Parce que je crois qu'aujourd'hui, comme ce que je disais, l'information, elle paraît à portée de main. Du coup, tout paraît facile. Or, c'est un effort, parce qu'il faut croiser, justement, des sources. Et là, c'est un vrai travail, en fait. Alors, et c'est ça qu'il faut, je pense, beaucoup dire. Et je ne sais pas ce qui se dit aujourd'hui dans l'éducation nationale. Je ne sais pas comment travaillent les professeurs s'ils expliquent tout ça à leurs élèves et même aux vraiment très jeunes, dès la petite école. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est dès la petite école. Maintenant, puisqu'ils ont tous ils ont tous entre les mains déjà leur smartphone, il faut quand même leur expliquer que toute la connaissance n'est pas là. Qu'il faut vraiment aller la chercher ailleurs et en soi et en observant. Je le répète, voilà, c'est ça. En observant.
Oui, je m'appelle Bernard Pringal, je suis ingénieur, j'ai fait mes études à l'ANSMA qui est à Poitiers, et il se trouve qu'avant-hier j'étais discuté avec des amis de ma promotion, avec le directeur de l'école, pour réfléchir un petit peu sur les questions de la formation. Je pense, enfin, ce que j'ai bien aimé dans ce que vous avez dit, c'est que ce qui est important, c'est ce que le problème que je me pose et non pas ce que d'autres me racontent. Mmh. Il me semble qu'on apprend beaucoup, enfin, j'ai appris beaucoup à l'école jusqu'au supérieur à émettre, à répondre à des questions, à dire bien, à faire une dissertation, enfin bref, à dire ce que je pensais. Alors on apprend maintenant à le dire mieux en vidéo, avec de l'émotion, etc. Ça, je ne l'ai pas appris parce que ça ne se faisait pas encore beaucoup à l'époque. Mais ce que j'ai appris en école d'ingénieur, ça a été de poser un problème. Et fondamentalement, la question, c'est qu'est-ce qui m'intéresse, moi ? Et par contre, il me semble qu'on m'a appris jusque dans le primaire, jusque maths sup, maths spé, on m'a appris à résoudre un problème posé par un autre.
Ah, c'est très intéressant. Ouais, c'est...
On m'avait aussi appris à chercher de la bibliographie. Mm-hmm. Aujourd'hui, Google me remplit la question.
Ouais.
Ben, c'est ça ne sert plus à rien du tout. Alors j'espère qu'on ne l'enseigne plus. Mais j'en sais rien. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait qu'on enseigne à quel est mon problème à moi. Je ne suis pas certain que ce soit facile à faire en primaire, mais je pense que ça doit se faire pas trop tard, quand même.
Donc, Aude Baranger, le souci, effectivement, des GAFA aussi également, c'est que toute l'information, le référencement, du coup, va sur une dérive de merchandising de la culture, puisque en fait, si on veut arriver dans les premiers résultats, etc., les mots-clés, parfois, il faut pouvoir les acheter. Et donc, du coup, les questions que les gens vont pouvoir poser à Google, parce que malheureusement, c'est le plus utilisé. Moi aussi, je l'utilise parce que ça va plus vite, etc. Mais parfois, quand on y en a d'autres alternatives également, mais c'est vrai que parfois on trouve pas les réponses de suite, et puis les gens font pas forcément l'effort d'aller à la deuxième ou troisième page de Google des résultats, et effectivement du coup on va aussi vers une tendance d'uniformisation de la pensée par ces grands GAFA, quoi.
Mmh, c'est exactement ça. Ouais.
Oui, vas-y. Voilà.
Hugues Bazin, enfin, je ne sais pas si c'est le problème, c'est de le croisement des sources, ou comme disait monsieur, la manière dont est produit le savoir aujourd'hui, quoi. Alors, effectivement, la production de savoir, ce n'est pas quelque chose qu'on gomme, mais c'est quelque chose qu'on construit ou qu'on reconstruit. L'histoire, c'est aussi une reconstruction, même si on peut dire qu'il y a des faits historiques, objectifs, etc. Et je cite un exemple qui m'est arrivé il y a quelques jours à peine. Je lance un petit tweet, parce que, enfin, je ne suis pas un forcené des tweets, hein, mais sur le parallèle entre les cahiers de doléances de 1789 et les cahiers de doléances aujourd'hui, quoi. Et il a été lu 80 000 fois. Moi, j'ai l'habitude d'être lu une dizaine de fois, c'est-à-dire c'est mon audience de chercheur, quoi. Et parce qu'il y a eu tout à coup une réappropriation historique de ce débat. Alors, c'est vrai qu'il y a des fausses nouvelles.
Vous aviez dû faire le hashtag doléances et vous êtes arrivé sur... les gens vous ont lu à travers le hashtag, en fait.
Et donc, il y a vraiment une recherche citoyenne historique. De dire, oui, alors, en quoi Macron est un roi ou pas? Alors, ils disent, ouais, non, il n'est pas un roi parce qu'il est élu. D'autres, ils disent, bah non, ce n'est pas lui qui a été élu, il a été placé par la finance, donc c'est un roi. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment une analyse critique, aussi socio-historique. Par Twitter. Donc, Twitter, c'est 250 caractères, quoi. Donc voilà, je crois que les gens aussi arrivent à décrypter aujourd'hui. Enfin, il y a les algorithmes et tout ça. Bon, d'ailleurs, bon, c'est pas nouveau. Hein, Orwell, 84, il n'avait pas Internet et il avait déjà dénoncé ça, la manipulation, l'information et les régimes totalitaires qui se basaient là-dessus. Donc il y a aussi, en même temps, une éducation à ça qui se crée, en même temps que chaque outil développe ses...
À partir du moment où on en est conscient.
Voilà, oui, oui. Voilà. Mais là, il y a une conscience assez intéressante qui se crée. Et là, bon, par rapport à ce qui se passe sur tous les réseaux gilets jaunes, donc, qu'on accuse de conspirationnisme en disant... Voilà, c'est vrai qu'il y a une fachosphère qui utilise effectivement Internet pour divulguer des... Mais il y a aussi un décryptage interne de ça aussi, quoi. Donc, en même temps qu'il y a l'aspect négatif, se construit aussi le contre-pouvoir positif par rapport à ça. Mmh. Donc il y a toujours un équilibrage qui se fait, quel que soit l'outil technologique, je pense.
Merci de ce témoignage. Vous voulez rajouter ?
Non.
Bon, merci.
Restez optimiste.
Puis restez avec nous aussi. Voilà. Merci. Merci en tous les cas. Je vais donc demander à Aude Barranger de venir nous parler de la maison du protestantisme, de sa situation, du lien avec le territoire. Et parler tout à l'heure, c'est Monsieur Marion qui évoquait ça. En quoi est-ce que ça peut nourrir justement le projet de territoire ? Vous parliez du Mélois dans son approche pour son avenir, compte tenu de son passé.
Je cherchais la souris avec le fil. Donc bonjour, Aude Barranger. Donc je suis l'animatrice de l'association la Maison du Protestantisme Poitevin. Donc moi, je suis venue toute seule. Les bénévoles m'ont dit tu feras ça très bien. Donc bon, je me charge de faire cette présentation. Donc la maison du protestantisme Poitevin, je suis déjà intervenue, c'était à l'automne, pour présenter notre association. Donc nous, on est une association à but culturel et pas cultuel. Donc c'est pour ça qu'au tout début, quand M. Doniol m'avait contacté pour la thématique de la journée avec le mot spiritualité, nous, ça nous avait un petit peu... interloqué, puisque justement, nous, la connotation spiritualité allait plutôt vers la fonction cultuelle. Donc, j'ai contourné un petit peu le problème, effectivement, en proposant, la transmission des savoirs d'une thématique singulière, puisque c'est vrai qu'on parle, effectivement, du protestantisme, mais de l'histoire du protestantisme dans la région du Pays Mélois, qui a une forte présence encore de protestantes sur son territoire, mais qui reste quand même assez discrète du point de vue du grand public, entre guillemets. Mais ça, c'est aussi le fait du vécu et de son histoire depuis le XVIe siècle, où les protestants ont subi plusieurs périodes de persécution. Donc nous, notre association Maison du Protestantisme Poitevin chapeaute en fait deux sites. Le centre Jean Rivière, donc c'est un centre de documentation et de recherche pour la généalogie, et c'est également axé sur le protestantisme, évidemment, où on conserve certains documents et certaines archives, donc qui se situe à La Couarde, et le musée du Poitou protestant, qui se situe à 3 km de La Couarde, donc à Bossé, qui est ouvert à peu près 6 mois de l'année, d'avril à novembre, et ouvert tout l'été, juillet-août, en continu quasiment. Mais on est obligé de démonter l'hiver, puisque notre scénographie se situe dans un temple qui est une ancienne église romane. Et donc, effectivement, les outils informatiques ou électroniques ne font pas bon ménage avec l'absence de chauffage et l'humidité qui est présente. Donc là, voilà pour le musée du Poitou protestant qui est à Bossé. Donc l'accueil et le temple. Donc nous, on va, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt comment nous, notre association, va mettre en œuvre cette transmission du savoir de l'histoire protestante. Quels sont tous les types d'actions qu'on va mener sur une saison culturelle, en fait. Voilà. Donc effectivement, sur le musée, sur le site du musée de Bossé, on propose une visite guidée qui dure environ 1h15. Donc une visite guidée avec un guide physique et pas des choses un petit peu plus électroniques ou audio guide, etc. Ça, c'était un choix de l'association. Après, là, on envisage aussi également de refaire cette scénographie qui a maintenant 18 ans. Donc c'est vrai que comme c'est tout le temps la même chose, ça s'essouffle aussi. Donc il faut renouveler les visiteurs. C'est aussi notre problématique, hein, de faire aussi venir un public plus jeune, comme vous observiez tout à l'heure. Donc notre scénographie dans le temple, voilà, qui, comme c'est encore un temple qui est encore utilisé à l'heure actuelle pour le culte, on cohabite, donc il a fallu une installation particulière pour pouvoir présenter cette histoire. Et comme c'est une histoire qui est dématérialisée aussi également, il n'y a pas énormément d'objets, hormis c'est des objets de la vie quotidienne qui pouvaient se retrouver aussi bien au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est les mêmes objets que tout à chacun avait. Donc c'est vraiment sur l'histoire, ce qu'ils ont vécu dans cette région-là, comment ils se sont cachés, comment ils ont fait pour survivre, etc., que nous présentons en fait également par le biais de l'histoire d'un instituteur qui a vécu au XVIIe siècle, donc à 10 km du musée, hein, à Bossé. Donc c'est ce fameux Jean Migaud qui malheureusement a dû fuir les persécutions, hein, et donc il y a quatre grandes thématiques qui vont être développées, donc c'est-à-dire comment la réforme est arrivée dans le Poitou, les guerres de religion, quels impacts elles ont eu sur le Poitou. Hein, donc on a grandi le territoire par rapport aux Mélois. Hein, on va aussi effectivement parler de La Rochelle, puisque c'était la capitale huguenote pendant un certain nombre d'années, le siège de La Rochelle aussi également. Les dragonnades qui ont été instaurées par Marillac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Poitou a été la première région test pour les persécutions. On entend beaucoup parler des persécutions dans les Cévennes, mais Marillac s'était fait la main auparavant ici. Et puis le fameux exil et les assemblées au désert suite à la révocation de l'édit de Nantes, hein, en 1685, les protestants étaient clandestins dans leur propre pays, ils n'avaient plus aucun droit. Donc pour certains qui avaient de la chance et un peu plus de moyens, ils ont pu partir dans les pays du refuge, hein, en exil, par exemple Angleterre, Hollande, etc. Mais d'autres, plus pauvres, sont restés sur place et pour vivre leur foi, on présente comment ils se débrouillaient, comment ils faisaient. Et aussi comment ils essayaient de fuir encore les dragons puisqu'ils étaient encore sur place. Notre deuxième site, donc effectivement le centre de documentation Jean Rivière, donc qui nous sert à la fois, c'est notre sèche-chaussée, hein, de l'association. C'est là où se trouve mon bureau et où on fait toute la programmation annuelle. Donc il y a effectivement juste ici en fait la salle de lecture où on peut accueillir les chercheurs, les généalogistes en quête d'informations sur l'histoire protestante. Là vous avez l'extérieur, la vue sur l'extérieur. Et puis voilà effectivement notre programmation. Là par contre ce qui manque en photo par contre c'est la salle d'archives. J'ai oublié de la mettre. Mais bon, si vous regardez sur notre site internet, vous trouverez quelques autres informations. Donc, notre programmation annuelle, on essaye de la diversifier un maximum et de proposer des animations qui peuvent convenir à un peu tout type de public. Parce que les conférences et les colloques vont effectivement plus intéressé, un public un peu plus averti. Les expositions temporaires, donc là avec une thématique également renouvelée tous les ans, des balades commentées, des balades théâtralisées, des animations pour le jeune public qu'on met en place pour les petites vacances scolaires. Ça a été juste mis en place l'année dernière. Et également des interventions en extérieur. Donc les conférences et les colloques, elles sont très souvent, enfin très fortement appréciées sur notre site. On arrive généralement à recevoir entre 50 et 90 personnes, en fait. Donc il y en a souvent une au mois de mars. Là, il y en aura une au mois de mars. Une autre en avril, qui en fait va coïncider avec l'inauguration et notre lancement de saison. L'inauguration de l'exposition, pardon. Voilà, et puis donc on fait intervenir sur ces conférences-là, sur des thématiques très variées. Donc en 2017, vous voyez les conférences qui ont lieu sur de la psychogénéalogie, par exemple, le rôle aussi des protestants durant la Seconde Guerre mondiale, donc ça c'est assez varié. Aussi, c'était le 500e anniversaire de la réforme de Luther, donc on avait une exposition sur Luther, donc on a organisé en partenariat. Donc c'est aussi important, les partenariats sur le territoire, donc là avec le pays d'art et d'histoire, parfois les offices de tourisme ou la communauté de communes aussi également, des colloques. L'année dernière, c'est toujours avec un lien sur le protestantisme, évidemment, Agrippa d'Aubigné avec Jean-Pierre Andreau. Ensuite, les expositions, la thématique annuelle de l'année dernière, c'était sur les migrations poitevines. Donc les poitevins au Canada, il y a eu 3 expositions qui se sont succédées aussi également. Et puis on a conclu notre année également par un colloque sur les migrations. Là, c'était la conférence de Marguerite Morisson qui avait eu un fort succès. Là, le Canada, ça a toujours un fort succès, les Québécois, etc. On a du mal à fallait pousser presque les murs, donc on a accueilli près de 95 personnes. Voilà. Donc là, c'était un beau score. Ça serait bien si cette année on pouvait avoir autant, mais c'est pas forcément gagné, mais on espère. Mais effectivement, sur ce type de conférence ou d'animation là, le type de public qu'on va avoir, c'est un public un peu plus âgé et averti. Voilà. Là, on n'a pas d'enfants, on n'a pas tellement de jeunes. Ah, oh, zut, c'était trop loin. Donc, les expositions temporaires. Donc là, vous en avez quelques exemples que nous avons présentés l'année dernière. Donc ici, on les met aussi en scène. Hein. On essaie de proposer un décor pour éviter que ce soit de simples panneaux qui tombent et puis que les gens soient immergés en fait dans la thématique de l'exposition. Donc là, c'était le Canada. Là, c'était Éléonore d'Olbreuse. Donc c'est vrai que le décor était un petit peu complexe aussi à mettre en œuvre parce que ayant aussi des petits moyens pour faire des décors, on s'est dit reconstituer un décor de chambre ou de salon, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc on était parti là sur un parc, un peu à la française, etc. Luther, là, donc on est parti sur l'imprimerie. Puisqu'effectivement, avec l'importance de l'imprimerie, l'écriture est importante chez les protestants. Et puis là, un autre exemple d'exposition, là, c'était sur l'occupation. Ensuite, dans l'été, c'est là où on peut diversifier un peu plus notre public, où là, on va avoir un public un peu plus familial, un peu plus jeune. Ce qui marche beaucoup aussi en ce moment, mais c'est tout ce qui est un peu nature, randonnée, et puis il y a pas mal de chemins de randonnée dans le Mélois. Donc ça, on leur propose a priori tous les ans. Et puis là, cette année, on a encore eu un beau succès. En 2017, on avait eu 20-30 de personnes, ce qui était très bien, parce que là, sur ce type de sentier-là, le sentier Huguenot, sur certaines parties du chemin, c'est vraiment un chemin qui est... quasiment comme si vous étiez au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ça a été très peu aménagé par l'homme, même si les agriculteurs font des ornières dans le sentier pour couper, pour éviter de faire tout le tour, pour aller dans deux champs différents. Mais voilà, donc c'est vraiment en file indienne, c'est des petits chemins, donc on se retrouve vraiment immergé dans cette période-là, et on raconte effectivement des faits locaux de cette période pour que les gens puissent se sentir la vie de la société locale à cette période-là, en fait. Voilà. D'autres balades commentées aussi également. Ça, c'est à l'automne que nous faisons ça, le premier dimanche d'octobre. Un rendez-vous qui est très fortement apprécié puisqu'en fait, on fait ouvrir les portes de logis privés qui ont une histoire effectivement protestante. Donc, soit les propriétaires nous aident à faire les visites, soit nous prenons le relais pour agrémenter l'aspect sur l'histoire protestante. Je vais peut-être essayer, je ne sais pas si au niveau du temps c'est bon. Là, les balades dans l'été, où aussi, là, du coup, on a eu pas mal de succès cette année, c'est des balades théâtralisées. Alors, je reprends un petit peu mes petites notes. Donc, en fait, là, ça s'appelait assez bien, puisque, en fait, à chaque fois, on valorise une commune différente autour. Souvent ça tombe dans le pays mélois avec des histoires qui ont des histoires vraies hein, suivant nos archives que nous avons au centre de documentation on ressort les événements qui se sont passés autour du parcours que nous avons décidé et on crée en fait, des scènes pour raconter à base d'histoires vraies l'histoire qui se sont déroulées vraiment sur ces localités-là. Voilà. Donc là, également, il faut aussi essayer d'attraper les plus jeunes, hein, puisque effectivement, dès le plus jeune âge, il faut essayer de sensibiliser aussi les plus jeunes à cette histoire particulière. Donc il faut essayer d'être imaginatif, de trouver des choses qui peuvent intéresser les enfants. Surtout sur une thématique qui n'est pas forcément facile à aborder et qui n'est pas très joyeuse puisqu'on parle parfois de massacres, de choses comme ça, donc il faut arriver à les accrocher. Donc là l'année dernière, le premier atelier c'était l'atelier Lulu la lampe, donc c'est les fameuses lampes sourdes avec lesquelles les protestants s'éclairaient quand ils fuyaient ou allaient aux assemblées du désert pour pouvoir s'éclairer dans les forêts. Ensuite, l'atelier attrape-rêve. Donc là, ça marche bien. Ça. Mais il y a toujours une relation, puisque c'était en relation avec notre exposition sur le Canada. Est-ce que les premiers pionniers ont pu découvrir lorsqu'ils sont arrivés en contact avec les Amérindiens, par exemple? Et puis le dernier, c'était le mérou, le fameux petit jeton de plomb que les protestants devaient montrer lorsqu'ils étaient convoqués ou lorsqu'ils voulaient participer à une assemblée du désert. C'était pour éviter les espions et éviter d'avoir un dragon qui surgisse au dernier moment pour arrêter. Malheureusement, il y a eu ce qu'on sait des assemblées secrètes. En fait, c'est celles qui ont été découvertes, quoi, comme le massacre de Grand Ry, etc., qui en 1688, où du coup l'assemblée a été découverte. Et là, ça a été malheureusement un fort massacre, avec plus de 500 et quelques personnes de massacrées, de découvertes. Donc là, voilà. Donc du coup, les enfants sont là, mais ce qu'on demande aussi, c'est que nous, on n'est pas garderie, donc que les parents soient avec les enfants. Et du coup, les parents, ils aiment bien aussi, du coup, manipuler, fabriquer. Et ils s'intègrent très bien dans les animations. Donc, et on se dit, pourquoi pas proposer, du coup, plutôt des ateliers famille que simplement axés sur les enfants. Ensuite, également, comme aujourd'hui, hein, on est amené à présenter, à faire connaître notre association à l'extérieur. Donc voilà, sur des thématiques particulières, au contraire, nous, ça nous fait connaître aussi également un petit peu le travail de l'association. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une association qui a été quand même créée depuis les années 1980. Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'archives de recueillis, etc., après les bénévoles se sont dit mais il faut les valoriser, il faut les mettre en œuvre, il faut les rendre accessibles. Et puis ça, dans les années 2000, ça a conduit à l'ouverture du musée qui se situe à Bossé. Et en 2009, un centre qui a été construit par la communauté de communes et dans lequel on est logé gracieusement à l'intérieur, mais qui permet de conserver tous les documents que certaines personnes nous transmettent au niveau d'archives protestantes, etc. Parce que si en 80, s'il y avait eu personne qui se serait intéressé à ce type d'archives-là, on ne sait pas à l'heure actuelle où ce serait. On espère peut-être aux archives départementales, mais après, c'est effectivement... c'est plus complexe pour pouvoir retrouver parfois les informations. Du coup, les archives départementales nous renvoient des personnes pour la recherche typique protestante, quoi, en fait. Et puis voilà, en 2018 exceptionnellement, donc on a eu deux tournages, donc on est content puisqu'on est un petit peu valorisé. Donc voilà, effectivement Les Racines et des Ailes. Donc là, ce sera maintenant on n'a pas encore la date. Ça devait être début d'année, mais finalement ce sera au printemps pour correspondre, comme ils sont venus tourner sur Poitiers aussi également, pour correspondre avec l'ouverture du palais, enfin pas du palais de justice, mais le voilà, enfin le projet voilà du palais de voilà. Et puis après, en 2019, voilà notre thématique annuelle. Ça va faire en fait écho à ce que vous disiez, l'importance de l'écriture, parce que chez les protestants, effectivement, le plus important, c'est l'écriture et la lecture. Enfin, c'était de savoir lire, mais accessoirement écrire, puisque pour pouvoir vivre leur culte, eux, c'est sans intermédiaire. C'est donc de pouvoir lire la Bible. L'enseignement est également très, très important par ce biais-là. Donc, c'est vrai que du coup, on retombe sur ce qui a été un petit peu dit dans les interventions précédentes. Mais moi toute seule, effectivement, comme je l'avais déjà dit la fois d'avant, je ne pourrais rien faire, je ne suis pas non plus à temps complet. Et heureusement que j'ai une bonne équipe de bénévoles derrière moi, qui sont malheureusement aussi, on revient sur la même observation, une équipe un petit peu vieillissante, et on a du mal à faire renouveler et d'avoir l'investissement nécessaire derrière. Mais voilà, par rapport à d'autres associations, on est quand même chanceux d'avoir toute cette équipe derrière moi. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci à vous. Moi, pour lancer les questions, j'en ai deux, trois peut-être précisions que vous pourriez apporter.
Oui.
Est-ce que finalement, on a parlé de conseil de développement, il y a un conseil de développement dans le pays mélois. Est-ce qu'on fait appel un peu à vous ou on a fait appel à vous pour penser la prospective du territoire en se disant, voilà. Autre chose, les thèmes 2019, si vous les avez, peut-être nous en parler.
Alors,
un
le
peu.
Programme est encore en construction, mais la thématique annuelle, c'est effectivement l'écriture. L'exposition, ce sera écrire pour exister. Donc, on retrouve, là, j'ai pas cliqué. Bon, là, du coup, si je clique sur le lien, ça va être celle de 2018, parce que c'est encore en projet. J'ai les contacts. Là, c'est juste une réponse mercredi dernier pour notre conférencier au mois d'avril. Mois de mars, ce sera Françoise Winter, le 17 mars, ce sera Françoise Winter qui a écrit un article dans le Picton et qui, elle, nous racontera l'histoire de la famille d'Anne de Chauffepied, donc issue également du territoire du Mélois.
On consultera votre site.
Il est encore en construction. Mais on a toutes les dates sont plus ou moins récurrentes. Tout ce qui est balade, théâtralisée, etc., c'est tout le temps dans l'été, toujours plus ou moins aux mêmes dates. Mais après, c'est à chaque fois les lieux que nous changeons et on adapte du coup notre médiation aux lieux et aux sources et aux archives qu'on trouve. Voilà. Donc parfois, quand on travaille, on a pensé à une première idée, on dit on va faire sur ce lieu-là, etc. Puis après, au vu des archives ou des choses qu'on trouve, on dit finalement, on va peut-être faire ailleurs parce que là, il n'y a pas assez de matière. Généralement, on arrive à trouver quand même. Parce qu'il y a des choses qui sont du coup inexploitées, et qu'on redécouvre des choses qui sont intéressantes.
Et on comprend bien aussi les moyens limités, hein, oui. On entend bien. Mais justement, petite digression aussi, songez aussi, alors c'est des moyens modestes, mais quand même qui peuvent être utilisés, c'est Fête de la science, puisque ça permet quand même d'avoir des moyens. Science se livre ou Images de science, puisque là aussi, ça vous permet. Donc n'hésitez pas, on a des. Vous voyez avec Céline, hein, ça nous en parlera.
C'est pour ça, du coup.
Voilà. Et puis il y a également les appels à projets qui sont dans le cadre de la culture scientifique et technique, qui sont régionales. Alors c'est pas des grosses sommes, mais ça peut quand même aller jusqu'à 4 000, 5 000 euros.
Mais c'est vrai que moi, comme là, je suis, j'ai pas précisé non plus, que vous le saviez aussi, mais ça fait un an et demi que je suis arrivée, que j'ai repris l'association, que je suis toute seule en salarié, hormis la saisonnière qui fait les visites guidées quand moi je suis pas là, parce que. À un moment donné, je suis pas là tout le temps. Et effectivement, ce qu'on cherche, enfin moi ce que je cherche aussi, c'est de justement mutualiser les partenariats, trouver d'autres moyens. Au contraire, parce que c'est en échangeant que nous on peut s'améliorer aussi. Nous, on propose ça à l'heure actuelle, mais comme animation, mais il y en a qu'on arrête parce que ça ne fonctionne plus. Après, il faut en trouver des nouvelles, comment s'adapter à tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Comme je disais, que ça fait 18 ans aussi que la scénographie tourne. Donc là, le projet, on a monté un copilotage, mais on est juste à la fin du diagnostic de la scénographie actuelle. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On est sur deux sites. Est-ce qu'on reste sur deux sites? Enfin, voilà, y a plein de questions qui se posent. Donc plein de travail aussi encore en perspective, mais effectivement d'avoir ces liens et ces contacts-là, moi au contraire je suis demandeuse et puis au fur et à mesure effectivement de prendre et de savoir où aller, parce que parfois c'est vrai qu'on se noie aussi un petit peu dans tout ce qui peut exister.
C'est le parcours du combattant parfois.
C'est ça.
Pour votre manifestation du mois d'octobre, c'est vrai que, étant donné que c'est déjà. Cette manifestation a lieu tous les ans au mois d'octobre.
Oui. Alors, on n'a pas encore. Pour la balade des logis, c'est ça, non?
Non, mais c'est vrai que la fête de la science, les dates sont tombées, c'est du 5 au. Ouais, je ne sais plus, 13 octobre par là. Et il y a juste à remplir le dossier. Mais du coup, ça permet d'avoir un fonds, un petit financement pour mettre en place cette action. Donc déjà, ça peut déjà, pour cette manifestation-là, avoir quelque chose. Et puis après, par rapport aux différents labels et par rapport aux appels à projets, si vous avez, notamment, étant donné que vous avez ce projet écriture, mais pour cette année, en fait, ça ne rentrera pas. Mais
l'exposition est déjà créée, parce que ils ont fait, avant que j'arrive, les bénévoles ont fait un gros travail. C'était ça que je cherchais, en fait. C'était toute la liste des expositions. J'avais le lien tout à l'heure. Voilà, il y en a déjà une dizaine qui existent. Donc là, c'est vrai que pour me dégager du temps, ça faisait peut-être une dizaine d'années que celle-ci n'avait pas été présentée, on va la ressortir. Moi, ça me permet de dégager du temps pour pouvoir travailler sur la réflexion de la scénographie. Et puis, ça tombera aussi en fait sur une même thématique que le Pays d'Arrêt d'Histoire mettre à partir du mois de, sans dévoiler leur programme, à partir de la mi-juillet, quoi, enfin milieu de l'année.
Ce qui n'empêche appels à projets pour 2020.
Parce que nous, c'est du partenariat.
Parce que nous, c'est déjà pour 2019, ils sont déjà clos. Les appels à projets arrivent fin 2019, donc pour l'année d'après. Mais c'est vrai que ça peut être aussi, idéalement aussi, conjointement avec différentes structures en collaboration sur un même territoire, notamment sur le Maine-et-Loire où on est assez présent. Donc voilà, après.
Oui, au contraire.
Il suffit que je vous mette dans la boucle des appels à projets.
Jouer de votre influence.
Comment ?
Jouer de votre influence auprès de Céline.
Merci.
Alors, pour élargir sur la prospective. Je ne sais pas si c'est vous, lorsque j'avais été visité, l'animatrice m'avait suscité une question. Elle disait que, par exemple, le problème des mutuelles à Niort était assez lié à la mentalité protestante. Est-ce que
les mutuelles et les coopératives, en fait, la création, les naissances sont effectivement liées à la présence protestante sur le territoire, parce que beaucoup de fondateurs ou de cofondateurs de mutuelles et de coopératives étaient protestants. Mais du coup, ils n'ont pas mis le fait d'être protestants en avant, parce que c'est toujours le problème du coup des protestants, c'est que il y a toujours cette discrétion qui reste du fait de leur histoire.
C'est pour ça que c'est important quand on parle de prospective, parce que Niort, sa place, elle la doit aujourd'hui, c'est la capitale des mutuelles.
Hein. C'est ça, non, mais voilà, je fais interroger, c'est moi qui ai formé là, on peut m'envoyer des fleurs, mais c'est vrai qu'effectivement, je lui avais posé la question quand j'ai accueilli la saisonnière pour qu'elle puisse être capable de faire la visite aussi également, sur ce fait-là. Donc du coup, c'est bien, elle a
l'a retransmis. Aussi.
Oui, voilà.
Est-ce qu'il y a des remarques, des questions?
Comme le crédit mutuel agricole, enfin le crédit agricole mutuel à l'époque, c'est pareil. C'est un des cofondateurs, Émile Nalin, qui est originaire de Beausset. Voilà.
C'est important de le dire.
En 1903, et puis député de Deux-Sèvres. Voilà. maintenant, ça a un petit peu dérivé dans l'optique première de solidarité, etc. Maintenant, c'est devenu un petit peu plus mercantile, mais tout ce qui est coopérative, les implantations de laiterie que vous avez aussi beaucoup dans le Maine-et-Loire sont liées à ce fait-là aussi également. Et puis également, après, quand vous avez tout ce qui est le cognac, etc., qui, bon, ça a plus glissé du coup sur la partie Charente, mais effectivement, bah, les Deux-Sèvres, à un moment donné, avaient aussi beaucoup de vignes, etc. Ils ont été touchés par le phylloxéra, et il y a aussi eu tout ce système de solidarité qui s'est mis en place. Pardon.
Des questions, des remarques ? Moi, je ferai juste un parallèle, mais il faudra qu'on le fasse dans les journées d'automne, avec le territoire bressuiré et moléonnais, c'est-à-dire l'importance là-bas des guerres de Vendée, mais aussi on a la ligne acadienne dans le Poitou, le problème du Québec. Enfin voilà, l'histoire pèse beaucoup sur le, même si elle se transforme bien sûr, et pèse
oui,
beaucoup sur le présent et l'avenir.
Du coup, il y a cette base commune sur lesquelles les gens du territoire naissent et doivent faire avec aussi. Donc ça, c'est une histoire qui, malgré tout, même si elle est insidieuse, se transmet. Quand même. Mais après, il ne faut pas l'oublier. Quoi. Il faut continuer à la transmettre.
Surtout dans un monde des médias et de l'hystérisation des chaînes de télévision d'info, voilà. Je pense que c'est important d'avoir...
L'observation aussi qui avait été faite lors d'un comité de copilotage pour la réfection de la scénographie, par le directeur de l'office de tourisme de Mel, qui est Sébastien Madieu, c'est que c'est vrai qu'en fait, maintenant, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est vivre des expériences. Donc il faut que nous, les sites, parfois on s'adapte à cette problématique-là et dans cette problématique, toujours on en revient du zapping, où du coup on veut un peu tout voir, ce qu'il y a, un peu vite des fois, et parfois en fait il faut juste se poser, prendre le temps, et voilà, parce que quand on voit, bon, après, si on fait le parallèle sur Paris, l'écart d'étrangers qui font en une semaine ou quelques jours, même moins, 10 châteaux de la... Enfin, pas 10, j'exagère, mais 10 châteaux de la Loire à la suite, c'est que des fautes. Enfin, voilà, ça se peint. Ils ont vu la France, mais un bout, quoi. c'est qu'il faut prendre le temps à un moment donné. Il vaut mieux en voir moins, mais mieux que plein et moyennement. En ayant des guides qui parfois disent des bêtises.
Bien, s'il n'y a pas d'autres, merci en tous les cas. Je vais demander donc à Michel Marc de venir nous parler des universités populaires, universités citoyennes, ça dépend nous, en ce qui nous concerne sur Poitou-Charentes, enfin, Céline pourra en parler deux minutes, plutôt sur la Vienne et Deux-Sèvres, il y a pas mal d'universités citoyennes, voilà, mais je vous laisse développer votre propos, monsieur Marc.
Merci. Je me présente très rapidement. J'étais géographe. Je le suis toujours dans ma tête. Hein. On le reste toujours, absolument. J'enseignais l'aménagement du territoire en tant que chargé de cours à l'Université d'Orléans. J'ai fait bien d'autres choses, mais ce n'est pas trop le propos ici. Par contre, ce qui touche à notre propos, c'est le fait que j'ai été cofondateur et même président pendant 3 ans de l'AUPF. L'AUPF, c'est l'Association des universités populaires de France. Je suis d'ailleurs toujours au bureau national. J'ai une réunion la semaine prochaine à Paris pour cela, d'ailleurs. Je crois qu'il n'est pas superflu de rappeler ce que sont les universités populaires. Les universités populaires de France sont nées à l'imitation d'un modèle, mais quand même c'est un peu ça, à l'imitation des écoles populaires qui avaient été fondées par le pasteur danois Grundtvig vers 1830, c'est-à-dire à l'époque où François Guizot initiait, c'était HS, c'est à peu près concomitant. Ces universités populaires françaises sont nées à la fin du 19e siècle, dans un contexte historique un peu particulier, c'est celui de l'affaire Dreyfus, avec tous les problèmes d'antisémitisme qui se sont fait jour. C'est aussi le contexte d'une Troisième République jeune, c'est le contexte d'une République qui vient de se doter de lois scolaires, les fameuses lois Jules Ferry, mais avec ce décalage qu'il convient de noter, l'école laïque gratuite et obligatoire s'adresse évidemment aux jeunes, aux jeunes élèves, mais les parents de ces élèves, eux, n'ont pas eu accès à l'école. Donc se pose la question de l'instruction, comme on disait à l'époque, et ce n'est pas pareil que l'éducation, donc se pose la question de l'instruction de ces adultes. C'est aussi l'époque où le fait social prend de l'importance. J'en prendrai pour exemple l'encyclique Rerum Novarum prise par le pape et qui montre que l'Église catholique n'entend pas laisser à la gauche le monopole du fait social, du traitement du fait social. C'est ainsi qu'est née à Paris une première structure en 1899, une structure qui s'appelait la coopération des idées, Société des universités populaires. Et l'année d'après, à Bourges, une université populaire est née sous l'égide de la Bourse du Travail. Alors je cite Bourges parce que j'ai été longtemps à Bourges, voilà, et président de l'UP du Berry, même si maintenant j'habite Nantes. Avant 1960, donc entre cette période de naissance des UP en France, on dit UP pour aller vite, hein, au lieu de dire université populaire, entre la naissance des UP à la fin du 19e et 1960, les UP ont connu des bas et des hauts. Alors les bas avec notamment les deux guerres mondiales, où un certain nombre de structures universités populaires ont disparu. Et puis des hauts, comme par exemple, je vais reprendre un exemple à Bourges, la création d'une université ouvrière en 1936, dans le contexte que vous imaginez. Université ouvrière qui s'est créée sous l'égide de la philosophe Simone Veil, et où on a vu d'ailleurs apparaître une problématique assez rapidement, c'était le décalage entre les intellectuels, comme Simone Veil, et les syndicats ouvriers, qui avaient une vision de l'instruction du peuple qui était assez fondamentalement différente. Bon, je l'ai dit, la Deuxième Guerre mondiale, tout comme la Première, amène à un affaissement des universités populaires, et pendant un certain temps, celles-ci, en France, soit ont clairement disparu, soit végètent. Il faut attendre 1960 et la naissance de l'Université populaire de Mulhouse pour que se relance le mouvement. Alors pourquoi Mulhouse, me direz-vous ? Eh bien parce que Mulhouse, c'est tout près de l'Allemagne et qu'en Allemagne, il y a un fait important à noter, c'est l'existence des Hochschule, qui sont les universités populaires allemandes et qui existent, mais alors absolument partout, y compris dans les villes très petites, parce que ces universités populaires sont financées en Allemagne par les Länder. Et là-bas, les universités populaires font absolument partie, de manière quasi officielle, du système de formation tout au long de la vie. Donc voilà, relance des universités populaires en France avec Mulhouse à l'imitation du modèle allemand. Il se trouve que, par exemple, à Bourges, on entend parler de l'UP de Mulhouse lors d'une émission de FR3. On a décidé d'en créer une, étant entendu que ceux qui ont créé cette UP de Bourges, ce sont des universitaires ou des gens proches des universitaires. On a des médecins, on a des chercheurs à l'IUT, enfin des gens comme ça. Et donc une UP qui se crée sur un modèle quasi-universitaire. Ce mouvement des UP a pris dans bien d'autres villes. Je dirais qu'à l'époque, dans les années 60, de 60 à 90 à peu près, les UP se développent essentiellement conformément à l'armature urbaine française, je dirais, c'est-à-dire dans les villes petites et moyennes. Il en existe certes à Paris, ce sont souvent des universités d'arrondissement ou des universités populaires très très spécialisées. Par exemple, il y avait une université dans je ne sais plus quel arrondissement qui était plutôt ésotérique, je dirais. Bon, ouais, des choses comme ça. Mais il y avait une université aussi à Lille. Mais en fait, les villes, les très grandes villes ne sont guère touchées par ce mouvement des années 60-90. C'est plutôt, je le répète, les villes petites et moyennes. Et elles se créent en conformité avec un contexte local, ce qui explique l'extraordinaire diversité des universités populaires en France, avec d'ailleurs des appellations très différentes. Certaines s'appellent UP, Université Populaire, d'autres s'appellent Université pour tous, ou Université Interâge, ou Université Indépendante, ou Université du Temps Libre. Alors on a des UIA, des UTL, etc. Il y avait même à Perpignan une Université Polytechnique, qui avait donc gardé une appellation assez ancienne, ça fleure bon la fin du 19e, un genre d'appellation. Je ne sais pas si elle existe encore, en tout cas, elle ne fait pas partie de la UPF. Alors la UPF, Association des Universités Populaires de France, c'est un mouvement qui s'est structuré dans les années 80 et 90, qui a essayé de donner de la cohérence au mouvement, mais sans vouloir du tout entacher la diversité des différentes UP. si bien que ces UP gardent chacune une identité forte, la UPF n'étant qu'un réseau de, j'allais dire, de soutien ou de mise en lien les unes avec les autres. Pourquoi on n'a pas voulu toucher à cette diversité ? Parce que, à l'évidence, c'est une richesse, c'est une source de créativité, et qu'il aurait été dommage d'en faire autrement. Que font donc les universités populaires ? Eh bien, elles se proposent, je dirais, d'une manière un peu évidente, de partager les savoirs et les savoir-faire, c'est-à-dire de mettre en contact des gens qui sont détenteurs de ces savoirs ou de ces savoir-faire avec des gens désireux d'acquérir ces mêmes savoirs ou savoir-faire. Sans esprit de délivrance de diplôme, encore que cela puisse arriver, mais ce n'est pas le but premier. En tout cas, accès à la connaissance, ou plutôt aux connaissances. Mais ce n'est pas le seul but, c'est aussi favoriser la co-construction de savoir dans le but d'aider la formation de citoyens capables de faire des choix et de peser dans le processus démocratique en connaissance de cause. Ce « en connaissance de cause » me semble important, surtout à l'époque où nous sommes, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de citoyens actuellement qui veulent peser sur les choix. On a des exemples depuis maintenant 10 semaines. Hein. Est-ce que ces choix, les choses qui sont proposées, est-ce qu'elles sont toujours éclairées? Est-ce qu'elles sont toujours faites en connaissance de cause? On peut, à bon droit, se poser la question, même si on comprend les revendications formulées, même si on comprend les souffrances qui sont mises en avant. Il y a donc là quelque chose d'important qui rejoint ce que disait notre intervieweur tout à l'heure, à savoir la dimension citoyenne des UP. Et puis c'est aussi, troisième objectif, la volonté de contribuer au développement du lien social. Alors je sais bien que le lien social, c'est devenu une espèce de tarte à la crème, mais on croit beaucoup, nous, au vivre ensemble, qui doit se substituer, à notre avis, au vivre à côté. C'est pas parce qu'on juxtapose des gens dans différents endroits qu'ils vont partager forcément un certain nombre de choses. On est à une époque où l'individualisme est souvent mis en avant et stigmatisé. Il est dommage que l'on vive à côté des autres sans savoir ce que fait notre voisin, sans savoir ce qu'il recherche, sans savoir quels sont ses besoins, ses souffrances ou ses envies. Donc voilà, recréer du lien social, même si c'est tarte à la crème, c'est quelque chose qui nous semble, c'est quelque chose qui nous paraît important. Ces contextes locaux auxquels je viens de faire allusion sont donc ceux des territoires, ces territoires qui sont appréhendés à des échelles spatiales différentes, et les interventions précédentes ont bien montré à quel point les échelles étaient importantes, parce que effectivement c'est là où on peut comprendre les enjeux, les tensions éventuellement qui se nouent dans ces territoires, parce que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, et c'est à notre avis ce qui rend pertinent ou pertinente une éducation populaire telle que je l'ai définie plus haut. J'ai intitulé mon propos, vous avez pu le voir sur la feuille, Université populaire et développement des territoires. Il me semble que parler de développement des territoires, c'est nécessairement parler de la créativité de ces territoires. Parler de cette éducation tout au long de la vie. Et parler du développement des territoires, c'est postuler qu'on va parler du développement des individus. Il ne nous semble pas qu'il puisse y avoir développement des territoires sans développement des individus, avec cet enracinement local qui a été déjà à maintes reprises souligné. Pour illustrer un petit peu ce postulat du développement des individus fondant le développement des territoires, je vais prendre un certain nombre d'exemples. Enfin, je me limiterai à 3 exemples, même si je pourrais multiplier par plus de 10 la liste des exemples. J'en prends 2 qui sont des exemples qui ont rencontré le succès, et puis un qui s'est soldé par un échec. J'oserai en parler parce que je suis à l'origine de ce 3e exemple, mais échec qui a été porteur d'enseignement. Premier exemple, je l'intitule « De la fête de la soupe à la réflexion citoyenne ». Alors, je conçois que l'intitulé puisse paraître un peu étonnant, parce qu'on ne voit sûrement pas au premier abord le rapport entre la soupe et la réflexion citoyenne. Alors, je vais m'en expliquer. Ça s'est déroulé dans la Fédération des universités populaires de Savoie-Mont-Blanc, c'est-à-dire du côté de Sallanches, La Roche-sur-Foron, Cluses, enfin toutes ces petites villes qui vivent du décolletage, de la sous-traitance, etc. Et qui sont, j'allais dire coincées, mais ils ne sont pas coincées, qui sont localisées entre Genève, le fait genevois pèse beaucoup, d'une part, et d'autre part, à l'autre extrémité, les grandes zones touristiques autour de Chamonix, autour des Grandes Alpes. Ces UP de Savoie-Mont-Blanc ont fait d'abord un constat. Le déficit de communication au sein d'une population d'origine diverse. Parce qu'il y a beaucoup dans les habitants de La Roche-sur-Foron, de Cluses, etc., de gens qui sont des immigrés, qui viennent d'horizons divers et qui sont structurés consciemment ou non en communautés qui se parlent ou qui se parlaient peu, qui communiquaient peu entre elles. D'une part, et d'autre part, deuxième constat qui rejoint l'autre, la faiblesse de la prise en charge des problématiques locales par les habitants. Donc, un des dirigeants de ces UP, qui avait eu des postes assez éminents à une certaine époque auprès de Chevènement, a eu l'idée d'essayer de rassembler ces communautés, de faire en sorte qu'elles se parlent. Sauf qu'il se demandait, parce qu'il y avait déjà eu des tas d'initiatives qui toutes avaient échoué, bon, les gens d'une communauté à une autre ne se parlaient guère. Et donc l'intervenant en question, Louis Colfuti, a eu l'idée de lancer une fête de la soupe. Il a dit, ben voilà, on va faire une fête. Tous ceux qui veulent venir avec leur soupe et nous raconter comment ils font leur soupe, dans leur pays, eh bien voilà, vous venez. Et donc, c'était un peu osé parce que rien ne permettait de penser que ça réussirait. Et à la première fête de la soupe, il y avait 7 soupes différentes et 2 ou 3 dizaines de participants qui étaient venus soit proposer, soit goûter, soit les deux, les soupes en question. Et la mayonnaise a pris immédiatement. Des Maghrébins sont allés voir des Turcs, des Portugais sont allés voir des Hongrois ou je ne sais qui, enfin bon, pour demander la recette de la soupe, pour dire c'est vachement bon ton truc, voilà, comment est-ce que tu fais ça, enfin, etc. Et l'année d'après, la fête de la soupe a eu lieu à la date anniversaire, mais cette fois-ci, il n'y avait pas cette soupe, mais il y en avait une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus. Enfin bref, le phénomène a pris de l'ampleur et les gens ont pris l'habitude de se parler entre eux. C'était déjà quelque chose de très important. C'était une espèce de préalable. Et à partir de là, les intervenants de l'UP de La Roche-sur-Foron et des villes circonvoisines ont décidé de demander à ces habitants s'ils s'intéressaient eh bien, aux problématiques qui se posaient dans leur commune. Et ils ne s'étaient jamais trop posé la question. Il y a eu tout un travail de démarchage fait par les gens des UP, y compris, j'y insiste, y compris auprès des jeunes. C'est-à-dire que les gens des UP allaient au pied des cages d'escalier, des HLM du coin, et puis demandaient aux jeunes qui glandaient là, il faut dire les choses comme elles sont, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais rien, qu'est-ce qui t'intéresse, ou plutôt, qu'est-ce qui te manque et qui fait que tu es là à taper la discute à longueur de journée, mais sans faire autre chose avec les copains. Il y a comme ça eu un mouvement qui s'est créé, qui a fait que petit à petit, les gens, pas tous évidemment, mais un certain nombre d'entre eux ont eu envie de s'intéresser aux problématiques de leur commune. Et donc les UP ont créé des rencontres qui sont devenues des espèces, non pas de conseils municipaux, il ne faut pas faire la confusion des genres, ça ne remplace pas, mais qui sont devenues des espaces de discussion pour faire émerger des demandes ou des besoins. Et donc là, on était passé, la fête de la soupe existe toujours, hein, on ne l'a pas fait disparaître, parce qu'il faut garder cette dimension ludique et cette dimension d'action un peu spontanée des gens. Mais on est passé de ça à une réflexion un peu plus citoyenne. Ça ne veut pas dire que ça marche toujours très très bien, que tout se passe bien. Quand on discute, enfin, c'est le copain qui nous racontait ça, quand il discute avec les jeunes au pied des escaliers, et qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui te manque, etc., des fois, il se fait renvoyer dans les cordes. Les jeunes n'ont pas envie de discuter, ou ils sont plus intéressés par leur petit trafic, ou leur gros trafic, d'ailleurs, que par des discussions de ce genre. Mais n'empêche que petit à petit, les choses avancent, et il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ajouterais qu'un des dirigeants des universités populaires de cette région est en même temps professeur d'histoire-géographie dans un lycée et qu'il a relayé un petit peu les problématiques, mais sous l'angle de l'analyse géographique avec ses étudiants de première et de première, avec les étudiants de première, et où ils ont fait, enfin, ils continuent à faire un travail qui est extrêmement intéressant. Et je trouve qu'il y a là vraiment une illustration de ce que peut être l'éducation populaire dans sa dimension participative et co-construction d'idées. Le deuxième exemple que je prendrai, alors là on va complètement traverser la France et se rapprocher de chez nous, c'est l'UP des Olonnes et le tutorat des études. Le constat fait par les dirigeants de l'Université populaire des Olonnes, c'est qu'il y avait difficulté pour un certain nombre d'habitants de la région à entamer ou à reprendre des études dans une petite localité qui se situe relativement loin des villes universitaires. Vous me direz que Nantes n'est pas très loin quand même de ni Poitiers d'ailleurs, des Olonnes ou même La Rochelle. Enfin, il y a quand même des universités dans le coin. Il n'empêche que, pour certains, faire ce déplacement, ça semblait difficile. Et donc, l'idée, ça a été d'instaurer, dans le cadre de l'UP, qui fait d'autres choses, hein, qui fait des cours classiques, qui font des conférences, etc. Mais l'UP des Olonnes a instauré un système de tutorat, soit tutorat simple, c'est-à-dire avec une seule personne, soit tutorat multiple, pour les étudiants qui veulent poursuivre ou entamer des études. Je dis poursuivre parce que certains d'entre eux sont des gens qui sont en reconversion. On m'a cité le cas d'une esthéticienne, d'une employée dans un institut d'esthéticienne qui voulait reprendre, enfin entamer des études de comptabilité pour travailler dans l'expertise comptable, enfin, etc. Il se trouve que cette expérience a maintenant quelques années d'existence et elle se révèle extrêmement positive. Et ça a permis à un certain nombre de personnes, je le répète, soit d'entamer, soit de reprendre des études et donc de changer leur trajectoire ainsi que finalement profiter au territoire dans lequel elles habitent. Ça, c'est les deux premiers exemples que je voulais citer. Ça va, je prends pas trop de temps là. Deux premiers exemples que je voulais citer et qui sont des exemples de réussite. Le troisième exemple, je vais le prendre du côté de l'Université populaire du Berry à Bourges. C'est un exemple de tentative de co-recherche sur l'histoire de quartiers difficiles de Bourges. Alors pourquoi cette idée ? Ben moi j'avais fait un constat, parce que je trouve que j'avais dans mes études de géographie travaillé sur la ZUP Nord. La ZUP, ça n'existe plus maintenant. C'est une notion qui a disparu, mais les zones à urbaniser en priorité dans les années 50-60, tout le monde savait ce que c'était qu'une ZUP. Bon, les quartiers nord de Bourges, la ZUP des années 60, donc, c'est 25 000 habitants sur une ville qui, à l'époque, en rassemblait 75 000 intramuros et 100 000 dans l'agglo. 25 000, même 26 000. C'est donc des quartiers qui pesaient d'un poids tout à fait considérable, mais des quartiers où, sur 26 000 habitants, il y avait 22 ethnies différentes. Donc, une extraordinaire diversité ethnique, un niveau de vie très bas, un taux de chômage extrêmement élevé et des quartiers qui étaient stigmatisés par le reste de la ville. On parlait des quartiers nord comme c'était les quartiers difficiles. D'ailleurs, on disait les quartiers tout court. Et les gens du centre-ville ne mettaient jamais les pieds dans les quartiers nord parce qu'ils étaient réputés... réputés dangereux. Il faut dire qu'il y avait cette coupure psychologique qui existait, mais en plus, ces quartiers nord sont séparés du reste de la ville par une voie ferrée qui introduit une coupure physique extrêmement marquée, voie ferrée qu'on ne peut franchir qu'à deux endroits dans la ville. Bon, la coupure était vraiment très, très réelle. L'objectif, à partir de ce constat, c'était de revaloriser l'image de ces quartiers. Et j'ai donc émis une hypothèse de travail qui valait ce qu'elle valait, qui était de faire travailler les habitants de cette ancienne ZUP sur l'histoire de leur quartier. Est-ce que le quartier qu'ils habitent, c'est la question que je posais à l'époque, a toujours été comme ça, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que eux sont arrivés là-dedans, etc. Pour mettre en place, pour répondre à cette hypothèse, il m'a fallu mettre en place des moyens et une méthodologie. Les moyens, c'était essentiellement des moyens humains. J'ai pu bénéficier de l'apport d'un maître de conférence en histoire, de l'apport du directeur des archives, de l'apport du conservateur de la bibliothèque municipale. Donc des gens qui étaient capables de proposer des protocoles de recherche, des protocoles d'enquête. Puis il y avait mon propre apport, je dirais pourquoi après. Mais l'idée, c'était bien que ces sachants ne soient pas les seuls constructeurs du savoir. Il s'agissait de les introduire dans le dispositif en tant que soutien à des habitants qui allaient travailler sur leur quartier. Et l'initiative a rencontré assez rapidement un très gros succès. Beaucoup de gens ont répondu à l'appel ainsi lancé et on s'est structuré en groupe de travail suivant les compétences de chacun. Moi, j'avais bâti un groupe de travail sur le recueil des représentations mentales parce que c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé à une époque. Et donc, on a recueilli des représentations mentales des habitants de la ZUP grâce à un protocole de recueil que j'avais mis au point, mais aussi recueil des représentations mentales des habitants qui n'habitaient pas la ZUP. Ça a donné lieu à une grosse masse de données qu'il a été difficile d'exploiter parce qu'on avait des moyens un peu limités pour le faire. Mais on est quand même parvenu à recueillir un certain nombre de données que nous avons croisées. Et ça a été extrêmement intéressant parce qu'on s'est aperçu que ces habitants des quartiers nord étaient très fiers d'habiter les quartiers nord. Ils étaient très contents, ils aimaient beaucoup leur quartier. Même s'ils faisaient un certain nombre de reproches à leur quartier. Sous-équipement en services publics, sous-équipement en espaces verts. Enfin, je vous passe le tableau, puisque vous le connaissez tous, il existe dans des tas d'endroits de France. Malgré ce constat parfois un peu négatif, ils aimaient leur quartier parce qu'il y avait une vie entre eux, parce qu'ils avaient pu reconstituer des habitudes qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Je vous ai dit, 22 ethnies différentes. Ils s'étaient même approprié des espaces un peu éloignés de ces quartiers. Je vais prendre l'exemple de l'ethnie Hmong. Les Hmong, donc des Asiatiques, qui ne sont pas chez eux dans leur pays d'origine, qui ne sont pas des jardiniers ni des cultivateurs. Et qui, partout où ils vont, parce qu'il y a une vraie diaspora des Hmong dans le monde, partout où ils vont, que ce soit le Brésil ou que ce soit la France, ils se font jardiniers. Je ne sais pas trop pourquoi, ils se font jardiniers. Et ces Hmong à Bourges se sont attribué une partie des parcelles des marais de Bourges, les fameux marais de Bourges qui ressemblent aux ortillonnages d'Amiens, pour ceux qui connaissent cela. Et ils se sont mis à y pratiquer des cultures, mais des cultures à destination commerciale, je dirais. Enfin, bon. C'était une forme d'intégration pour eux, mais il était intéressant de savoir comment ils étaient arrivés là et la présentation qu'ils avaient. Bon, ce projet, vous l'avez compris, a bien commencé et il se déroulait de belle manière. Moi, j'étais très content de ce qui se passait. Et je vous passe les détails parce que ce serait un peu long, mais in fine, il a échoué. Pourquoi ? Pour deux catégories de raisons. Une première catégorie qui fait que le conservateur de la bibliothèque est mort. Ça, c'est pas de sa faute. La deuxième, et toujours dans le même ordre de raison, le maître de conférence en histoire, qui était un soutien très très précieux, a obtenu un poste à la Sorbonne. Il a quitté Bourges et du coup, il n'était plus facile pour lui d'être là. Donc, il y a eu un certain nombre de départs d'intervenants qui nous ont privés de leur appui important, je l'ai dit. La deuxième raison, c'est que je n'avais pas compris une chose, c'est que il y avait une rivalité sourde, vraiment non dite, entre les associations de la ZUP Nord. La ZUP Nord était très riche en associations, une trentaine d'associations très très implantées. Donc, rivalité sourde entre les associations de la ZUP Nord et celles de centre-ville. Or, nous, Université populaire du Berry, il se trouve que nous avions notre siège social, si j'ose dire, en centre-ville, là où la mairie avait bien voulu nous loger. Ça n'était pas de notre fait, mais c'était comme ça. Si bien que nous étions catalogués association de centre-ville, donc association de Bourges, de bourgeois, je veux dire. Bon. Et donc, de ce fait, nous étions attachés d'une certaine suspicion. Or, il se trouve que ces habitants des quartiers nord qui travaillaient avec nous ont été travaillés de l'intérieur par certains membres des associations de Bourges Nord qui avaient fait de l'entrisme, si j'ose dire. On n'avait rien contre ça, on s'en foutait, mais voilà, je n'ai pas pris de précaution. Et donc, ils les ont travaillés, puis on dit, bon, faut vous méfier, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont ressortir, vous savez, c'est des gens, c'est des bourgeois, tout ça. Et bref, petit à petit, il y a une espèce de déliquescence du processus. Moi, je m'en attribue la responsabilité, parce que je n'avais pas vu venir la chose, et je n'ai compris ça que par la suite. Donc, finalement, ça s'est terminé en eau de boudin, et donc on n'a pas pu établir un corpus qui fasse le bilan de cette recherche. Je le regrette infiniment, j'en ai tiré des enseignements, parce que je me suis dit ensuite, quand j'interviendrai, quand j'aurai des projets sur Bourges-Nord, je ferai attention de prendre un certain nombre de précautions, tout simplement, que je n'avais pas prises. Tout ça pour dire que au sein des UP, il peut y avoir des projets extrêmement différents. Ça fait partie de cette inventivité qui est propre aux UP. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce foisonnement d'idées? Pourquoi est-ce que très souvent ça marche bien? Eh bien, parce que les gens qui s'occupent des UP sont ancrés dans le territoire et ils ont une bonne connaissance de leur territoire. Et donc, très souvent, ils en comprennent les problématiques, ils en comprennent les enjeux, et ils sont en mesure de les traiter. Je dis très souvent, néanmoins, pas tout à fait toujours, et il n'y a pas très longtemps, j'ai été sollicité par une UP de la Fédération Savoie-Mont-Blanc, parce qu'ils se demandaient comment faire émerger un certain nombre de données dans leur espace géographique. Et donc, on a travaillé ensemble là-dessus. Et ça m'amène à une deuxième conclusion, c'est l'importance du réseau. Autrement dit, l'ancrage local, c'est important. Faire émerger des compétences locales, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, les Alsaciens et les Allemands ont une expression pour ça. Ils disent « grabe wo du stehst », creuse là où tu es. C'est-à-dire, fais émerger de ton espace les capacités, les compétences, etc. Ça, c'est important. Mais quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout seul, on n'est pas obligé de réinventer la brouette. On peut aller voir ailleurs ce qui se fait. Et c'est ça l'utilité du réseau de la UPF. Et donc, finalement, on est dans une espèce de jeu d'échelle. On travaille localement, mais on fait appel soit à la fédération régionale du PSI, une fédération régionale, soit au national, la UPF dans son intégralité, si c'est nécessaire. Et ces jeux d'échelle, moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, je trouve que c'est pertinent, et que c'est pertinent non seulement pour l'aménagement des territoires, on le sait bien, mais je dirais plus largement pour l'action politique. Et dans le contexte où nous sommes en France, je trouve qu'il y a un écho profond avec ça. On ne voit pas tout de Paris, mais on ne voit pas tout non plus de son rond-point, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, croiser les regards, c'est quelque chose qui me semble important. Et moi, c'est vraiment ce que je retire de ce travail au sein des UP. Et je répète, j'aurais pu citer maint autre exemple, parce que ces UP sont tellement différentes. Il y en a qui font de l'alphabétisation, il y en a qui font des tas d'autres choses. On pourrait, comme ça, allonger la liste de manière très, très longue. Mais je crois que l'enseignement à tirer de ce que nous faisons, qui reste modeste, hein. Ça reste très modeste. La UPF, c'est 90 UP en France. Alors que des UP en France, enfin des UP ou associations équivalentes, il doit en exister 300 ou 400. Donc c'est très modeste ce que nous faisons. Mais n'empêche qu'on peut tirer des actions, des enseignements de ces actions. Et nous sommes tout à fait incités à continuer. Merci à vous.
Merci, Monsieur Marc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce thème? Oui.
Ah oui, Pascal Motura. Oui, j'ai beaucoup aimé votre remarque. C'est le développement des individus qui fondent les territoires. Moi, je dirais qu'ils portent les territoires. Tout ça pour en revenir à l'intitulé, en fait, du programme dans lequel s'inscrit, en fait, notre table ronde. Quand vous écrivez circulation de la pensée au bénéfice de la créativité des territoires. Moi, ça m'a un peu heurté parce que je me suis dit, mais un territoire n'est pas créatif. Franchement, ce sont les individus qui sont créatifs. Et je crois qu'il faudrait arrêter d'utiliser ce type de jargon, en fait, créativité des territoires. Enfin, c'est vrai que c'est toute une terminologie qui circule trop. Il faut en revenir vraiment au développement des individus qui sont créatifs, si on les aide à être créatifs. Quoi. Enfin, c'est bon. Et bravo pour votre intervention. Et pour
merci.
Pour
vous savez ce que dit le géographe Christophe Guillouis. Il dit il n'y a pas de territoire, il y a des hommes dans les territoires. Alors, moi, j'aime bien ça. N'empêche qu'il se réfère quand même à des territoires quand il dit il y a des hommes dans les territoires. C'est pour ça que je trouve le va-et-vient entre territoire et individu intéressant. Mais pas l'individu tout seul.
D'autres remarques? Moi, j'avais juste deux suggestions, peut-être. Je ne me rappelle plus le titre du bouquin d'Alain Corbin, mais qui raconte l'histoire d'un enseignant dans la Haute-Vienne. Et qui est un peu un bel exemple, parce que les paysans de l'époque faisaient des kilomètres pour aller écouter cet instituteur qui faisait finalement une université populaire, je pense. Alors, je ne me rappelle plus le titre du livre.
Ça ne me revient pas immédiatement. Mais
Et puis d'autre part...
Tu connais le titre, Christophe, peut-être, non?
Sur vous avez parlé de fédération régionale, donc l'état de la ressource sur la Nouvelle-Aquitaine.
Alors, les UP essayent effectivement de se structurer en fédérations régionales, qui sont l'étage intermédiaire entre le national et le local. Ça marche en Rhône-Alpes-Auvergne et ça marche en... Comment ça s'appelle? C'est Occitanie maintenant?
C'est Occitanie.
Bon, allez, ça marche là en Occitanie. À ma connaissance, il n'y a pas en Nouvelle-Aquitaine de fédération régionale. Pour l'instant, je n'ai connaissance que d'UP œuvrant chacune dans leur secteur. À table tout à l'heure, je parlais de Mont-de-Marsan, j'ai parlé de Ruelle. C'est l'université du Pays de Serre aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Si, vers Orte et Tardoire, oui, vers Angoulême.
Oui, par là, oui. Qui a une grosse...
On a reçu le représentant de l'archéologie là-bas. Enfin.
Oui, ils ont un gros travail citoyen aussi dans leur... Oui, j'ai oublié de dire à propos de tout à l'heure de l'UP des Olonnes, ça me revient seulement maintenant, qu'ils sont... C'est une assez petite UP, mais ils sont capables de faire venir des intervenants. Alors, ils ont beaucoup d'intervenants locaux, vous l'avez compris, mais ils font aussi intervenir venir des intervenants d'envergure, je dirais, ou de grande notoriété. Et là encore, on s'aperçoit que y a des jeux d'échelle. Quoi. C'est la rencontre du, non pas du global et du local, parce qu'on n'est pas peut-être au niveau global, mais enfin, en tout cas, du national et du local.
Oui.
Peut-être une remarque, puis je crois que tu avais une question. On parlait de Wikisto, le projet, l'application tout à l'heure, smartphone, qui permet d'avoir des parcours géolocalisés éventuellement autour du patrimoine et de l'histoire. Et je sais que le créateur de l'application avait travaillé aussi avec les jeunes, une maison des jeunes MJC, Maison des Jeunes et de la Culture du Mans. Et ils avaient travaillé avec les jeunes autour d'un parcours des graphes au Mans. Quels étaient les graphes? Est-ce qu'on pouvait faire un parcours dans la ville autour de ces graphes? Quelles étaient les histoires que ces graphes racontaient, etc., etc. Et je crois qu'aujourd'hui, la notion de patrimoine est tellement protéiforme qu'on peut, avec ces jeunes-là, travailler sur les espaces dans lesquels ils vivent pour leur faire découvrir que finalement, ce qu'ils ne pensent pas être patrimoine est malgré tout patrimonial. Et c'est vrai que dans les grandes banlieues parisiennes, on voit un certain nombre de logements qui ont été créés, construits par des architectes célèbres dans les années 50-60. Alors évidemment, quand on habite dans le quartier en question, ça ne fait pas forcément envie, on n'a pas l'impression que c'est patrimonial, or ça l'est. Et il y a des marchés anciens qui ont grossi, qui ont été créés, qui ont grossi avec l'immigration. Et là aussi, c'est devenu progressivement des lieux de mémoire, finalement. Donc c'est une approche assez intéressante, en effet, de montrer à ces jeunes parfois issus de l'immigration ou à ces jeunes de catégories socio-professionnelles défavorisées, de leur montrer que le patrimoine, c'est pas seulement Notre-Dame-la-Grande ou la cathédrale de Chartres. Quoi.
Oui, tu fais bien de dire ça parce que à propos de la région Centre que tu connais bien, vient de sortir un dictionnaire du patrimoine de la région Centre et c'est un ouvrage collectif. Et dedans, on m'a demandé de faire une notice sur le mouvement des universités populaires en région centre, parce qu'on considère que ça fait partie du patrimoine immatériel de la région. Tout à fait. Eh oui.
Bien, merci. Et on va demander à Hugues Bazin, pour terminer, qui est chercheur indépendant. Et donc, ce qui est intéressant, justement, c'est cette notion de recherche indépendante. On a parlé de recherche participative, etc. Peut-être évoquer tout ça. Et on a parlé aussi d'université populaire. Donc voilà. Hugues, à toi.
Ok, je ne vais pas être trop long. Perdre la dernière personne qui reste à nous écouter. Oui, je vais parler d'une initiative à travers cette dimension de recherche-action, qui est une écriture collaborative qui a duré deux ans et qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Les Cahiers de l'Action, dont je suis, dont je fais partie du comité de rédaction, et qui s'appelle donc Recherche-action et écriture réflexive, la pratique innovante des espaces comme levier de transformation sociale. Et dans cette donc, revue, il y a une quinzaine d'expériences dans différentes régions, de pratiques qu'on pourrait appeler d'innovation sociale à partir d'une pratique des espaces. Donc ce que je vais expliquer, c'est un peu les enjeux que porte cette démarche participative. Et d'ailleurs, bon, ça renvoie à des questions que vous avez posées aussi dans vos interventions, parce que quand par exemple on parle de recherche collaborative, moi je me pose toujours la question à quelle place, par exemple, se place le citoyen. Et souvent, il est plutôt compris comme une personne qui amène des ressources à la recherche. Quoi, voilà. Et je pense que les citoyens ne sont pas simplement des gens qui amènent des ressources aux chercheurs, mais ils peuvent être aussi des chercheurs. Voilà. Et donc là, et c'est ça qui... Parce qu'il y a toujours cette ambiguïté, hein, quand on parle de recherche participative ou collaborative, ce sont toujours quand même les chercheurs qui sont les accompagnateurs et ils viennent chercher des matériaux sur les territoires et les citoyens participent. Mais parfois, les citoyens ne savent pas. Alors déjà, bon, bah, c'est bien qu'ils amènent des matériaux, mais en quoi justement cette recherche ensuite profite au territoire et permet des formes de transformation sociale, d'émancipation collective. Bien souvent, les citoyens ne maîtrisent pas ensuite où va cette production et quel est le sens de cette production. D'où des fois aussi des réticences après à dire, notamment dans les quartiers nord des villes, de dire mais qu'est-ce que sont ces gens qui viennent nous étudier, mais après, effectivement, à quoi sert cette production. Et donc, c'est vrai que on a donc essayé de chercher un dispositif qui essaye de répondre à cette question, c'est-à-dire et qu'on appelle laboratoire social, qui est de dire effectivement, ce sont plutôt que chercher la participation des gens, en fait, c'est les situations collectives humaines que créent les gens qui peuvent devenir en eux-mêmes des laboratoires de recherche. Voilà. Donc c'est pas nous qui vont inventer une problématique de recherche. On va dire tout d'un coup. Alors des fois on répond aussi à des. Là, quand je dis c'est notre association, des fois on répond à des appels à projets classiques. Et donc là on nous dit voilà, la problématique c'est par exemple là on travaille sur une recherche autour les modèles socio-économiques des associations jeunesse éducation populaire, qui nous a fait d'ailleurs travailler dans le Limousin, qui est une région très intéressante. Donc là c'est vrai qu'il y a une commande. Mais même quand il y a une commande, on essaye de la détourner. Alors ça pose souvent d'ailleurs des difficultés avec le commanditaire, qui demande avant tout un travail, j'ai envie de dire, d'analyse du territoire. Et nous, on dit non, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les acteurs de ce territoire peuvent être coproducteurs de la recherche. Donc du coup, on ne sait pas trop où on va. Donc ça fait peur aux commanditaires. Parce que souvent, les commanditaires attendent qu'on finalement on valorise leurs questions, mais pas obligatoirement les acteurs du territoire. Quoi. C'est un peu le problème souvent des commandes de recherche. Quoi. Et là, c'est en fait, cette démarche sur deux ans, c'est justement pas une commande. C'est une sorte d'auto-missionnement. Voilà. donc sans moyens, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc c'est vrai que ça pose aussi quelques difficultés au départ. Et on a profité de ce numéro qui diffuse un savoir auprès des fédérations de jeunesse et d'éducation populaire, bah, dire, pour négocier un numéro en disant bah, « Non, là pour le coup, ça ne va pas simplement être un numéro où des professionnels écrivent aux professionnels. » En l'occurrence, c'est les professionnels de ce champ-là d'activité, donc les fédérations d'éducation populaire. Mais ça va être un numéro où des acteurs vont écrire, enfin réinventent une forme d'éducation populaire et donc, par l'écriture, produisent un savoir. Donc, on ne peut pas savoir, au départ, bah, finalement, ce que ça va produire. Donc, négocier un numéro comme ça, ça fait peur. Et il a fallu convaincre le directeur de l'INJEP qu'effectivement, ça n'allait pas être n'importe quoi et partir dans tous les sens. Et tout ça pour dire la difficulté qu'on a toujours aujourd'hui, même si... parce que c'est très, très, très à la mode. Nous, qu'on a lancé le réseau au début des années 2000, ce n'était pas encore trop à la mode, la recherche-action. Aujourd'hui, c'est... Bah, c'est un peu comme le lien social dont on parlait tout à l'heure. La participation, aujourd'hui, il faut que ça soit dans toutes les commandes. Il faut qu'il y ait de la participation, quoi. Donc, nous, on aperçoit justement un peu une injonction paradoxale, quoi, parce qu'on demande aux gens de participer, mais on serait bien ennuyé si vraiment ils participaient, c'est-à-dire si vraiment ils prenaient le pouvoir sur le processus qu'on leur propose, quoi. Donc, je trouve que les choses ont quand même du mal à avancer. Et donc, ce numéro donc, avait pour... Donc, comme notre laboratoire social, donc d'une part, donc valider une production de savoir à partir des pratiques d'expérimentation sociale et légitimer la posture d'acteur-chercheur, parce que bien souvent, ces acteurs donc, qui peuvent produire du savoir par rapport donc, à leur pratique ne se sentent pas légitimes pour le faire. Donc c'est là où vient le problème. Ce n'est pas parce qu'ils ne réfléchissent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'écrivent pas, mais tout simplement, ils ne s'autorisent pas à le faire parce qu'on leur dit, effectivement, ce n'est pas, on ne vous reconnaît, par exemple, uniquement comme un technicien. C'est-à-dire on ne vous reconnaît que dans votre compétence, dans votre champ professionnel. Moi, j'ai été, avant d'être chercheur en sciences sociales, j'étais travailleur social, donc vraiment un acteur de terrain. Et j'avais écrit, j'étais devenu directeur de publication d'une revue qui s'appelait « Paroles et pratiques sociales », qui a duré une quinzaine d'années entre 80 et 90, pour dire justement, les travailleurs sociaux, ce n'est pas simplement des techniciens, ce n'est pas simplement des agents d'une structure qui vont faire de l'insertion sociale, c'est des gens qui sont capables de produire un savoir sur leur pratique, et peut-être beaucoup plus pertinent que les sociologues qui vont étudier, par exemple, les quartiers populaires. Parce que eux, les travailleurs sociaux, sont sur la brèche au quotidien, donc, il y a une sorte, j'ai envie de dire, à la fois de non-reconnaissance de ces pratiques comme une capacité d'expertise, et puis aussi un gâchis énorme, enfin bon... parce qu'effectivement, les travailleurs sociaux, comme la plupart des techniciens, quand ils écrivent, c'est plutôt une écriture contrainte. Ça leur demande des rapports d'évaluation, qui souvent ne servent pas à grand-chose, pour justifier de leur emploi ou de l'appel à projet, etc. quoi. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu de valider et de légitimer les acteurs dans une posture de recherche. Et l'écriture n'est pas le seul outil, mais un outil très intéressant pour valider ça. Et par exemple, il y a ces expériences ont permis de débloquer des choses sur les territoires. Par exemple, il y a ce cahier est téléchargeable en fichier PDF, parce qu'il ne se trouve pas dans le commerce. Vous tapez INJEP, cahier de l'action, Hugues Bazin. Bah, je crois que le lien est sur le papier. Voilà, bon. Par exemple, il y a une expérience qui s'appelle la chimère citoyenne à Grenoble, qui est un lieu d'accueil inconditionnel. C'est des gens justement qui viennent du social et qui ont eu marre de... l'accueil sous forme de guichet, où les gens ne sont pas reçus, en fait, ne sont pas accueillis. L'accueil, on parlait du patrimoine. L'accueil inconditionnel sur le territoire, c'est un élément fondamental du patrimoine. La capacité d'accueillir une diversité sur un territoire, ça se pose aujourd'hui aussi de manière cruciale par rapport aux migrants, etc. Et cette expérience, par exemple, de la chimère citoyenne, grâce à ce travail d'écriture dans le dossier, a permis de négocier justement cette démarche auprès de la municipalité, auprès de la collectivité territoriale. Et on a fait aussi une rencontre à la Maison des sciences de l'homme d'Alpes, donc à Grenoble, pour aussi exposer ses expériences. Donc là, c'est un deuxième rôle de ce groupe de travail, c'est créer des interfaces entre ces espaces qu'on pourrait appeler instituants émergents de la recherche, où les praticiens créent leurs propres normes d'évaluation de la recherche et des pôles académiques ou institutionnels. Et donc là, on rentre dans une logique de recherche collaborative, mais pas où c'est le chercheur officiel qui vient demander l'accompagnement ou la collaboration de manière assez verticale, mais le contraire. Où c'est les praticiens qui vont solliciter les pôles pour dire « Nous, on a une problématique forte, on a des questions fortes, est-ce que vous voulez nous rejoindre là-dessus » Et ça, ça pose des questions, parce que les gens n'ont pas trop l'habitude de se faire interpeller. On a occupé la salle d'accueil, c'est comme si là, on occupait la salle d'accueil ici de l'Espace Monde de France, et personnel d'accueil était... Enfin, c'est la première fois qu'ils voyaient des habitants dans un lieu de recherche. Bah oui. Donc ça faisait même peur un peu, voilà. Parce qu'en plus, il y avait des SDF, il y avait des gens, enfin, il y avait toute la diversité qu'on peut trouver dans une ville. Et on n'a pas l'habitude de voir ça enfin, dans les pôles universitaires. Donc là, c'était justement. Et on a obligé les chercheurs qui étaient au deuxième étage, bah, vous pouvez descendre d'un étage. Et puis, ils ont participé à table ronde, etc. Mais ce n'est pas eux qui parlaient. Donc, ils n'ont pas trop l'habitude non plus de ça. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu de jouer ce rôle d'interface. Et donc, l'enjeu derrière, c'est justement faire reconnaître ce champ. Alors, comment le nommer, justement? Est-ce que les recherches-action, sens participatif, collaboratif, il y a un fourre-tout. Même derrière le mot recherche-action, vous interrogez 5 personnes, il y aura 5 définitions différentes. Il n'y a pas un corpus et un champ solidifié en France. Après, il y a plutôt des champs, mais qui viennent plutôt de l'extérieur, comme plus le champ empirique québécois, voilà, qui est très pragmatique, qui va parler de recherche-action participative. Mais eux, ils vont parler, par exemple, de design social. Donc, ils sont vraiment dans une logique de production, d'adaptation des acteurs, conditions sociales, etc. Voilà, donc il y a différents champs qui font courant. Donc là, on est, par exemple, dans l'idée d'écrire un manifeste de la recherche-action. On appelle ça les tiers espaces de la recherche-action. Tiers espaces, je vais revenir sur cette notion-là, justement, espace intermédiaire entre le champ non institué et le champ institué. Bon. Le tiers espace, c'est ce qui permet effectivement de créer de la complexité, de sortir de la logique de confrontation binaire dans laquelle on s'enferme toujours, par exemple entre le savant et le profane. Et, par exemple, le modèle d'université populaire n'y a pas échappé d'une certaine manière, parce que souvent, il est basé sur le modèle universitaire, donc sur un modèle quand même assez descendant, même si après on peut dire que ça aide à l'accès au savoir, mais bon, en général, c'est un peu comme dans les musées ou les lieux culturels, c'est toujours les mêmes publics qui y vont. Quoi, voilà. C'est pas, voilà, bon, c'est, même si on veut après dire on développe l'accès à la culture, au savoir, etc., c'est quand même les mêmes publics qui y vont. Et donc comment inverser ça et comment donc poser un enjeu vraiment à la fois scientifique et politique. Et on voit par rapport aux questions d'environnement qui sont aussi des enjeux vitaux, quoi, voilà. Puisque de toute façon, la fin est programmée. Donc là, la question, c'est comment effectivement construire une alternative. Et puis le troisième enjeu qu'on retrouve de manière transversale dans ce dossier, c'est que toutes ces pratiques-là partent justement d'une pratique des espaces. Voilà. Je vais vous poser une hypothèse qui va peut-être vous paraître un peu... Mais on parlait justement des territoires, hein, tout à l'heure, la définition des territoires. Et là, je vous rejoins sur le fait que les territoires sont une construction sociale émanant à la fois de pratiques humaines et des stratégies de développement. Voilà, bon. C'est un peu schématique, mais on peut dresser 3 perspectives de vision justement qui se chevauchent et se confondent dans cette logique de territoire. Il y a, ce qui est très traditionnel à la planification en France, qui est l'aménagement planifié, public, étatique des collectivités territoriales. Donc c'est une logique assez verticale et nationale des plans de cartographie administrative de développement. Qui a été remise en cause depuis un certain nombre de décennies par une logique néolibérale, voire ultralibérale, qui va insister plutôt sur l'attractivité, la compétitivité des territoires. Là, ça va être plutôt la cartographie des hubs, des clusters, des makers. Alors, vous voyez, c'est en plus des termes anglo-saxons. Hein, c'est-à-dire c'est à la fois une logique horizontale, mais de la mobilité, de la rapidité du flux transnational, voilà, qui va déterminer de nouveaux pôles régionaux. Alors, ce qui se passe, par exemple, puisque je suis surtout sur Paris, même si je travaille sur toute la France, là, au niveau du Grand Paris, c'est catastrophique. Car, voilà, bon, l'aménagement du Grand Paris qui ne tient alors pas du tout justement des populations qui sont ancrées. Donc, il crée des nouveaux hubs à travers les nouveaux transports en commun, qui chassent en fait les populations d'origine et qui sont finalement des espaces marchands, quoi, voilà. Donc effectivement, ces formes-là d'attractivité des territoires posent vraiment des questions sur justement ce qui forme le territoire. Puis il y a un troisième plan dans lequel évidemment nous on va plutôt se situer. Donc comme vous avez aperçu, j'aime bien le chiffre 3, un tiers. C'est justement les espaces instaurant des communs entre cette dimension publique étatique et ces dimensions privées libérales. Donc, c'est toute la logique des communs ou du communalisme, etc., bon, qui n'est pas nouvelle, d'ailleurs, hein, qu'on redécouvre. Voilà, bon, c'est comment partager le territoire et comment déterminer les ressources qui sont vitales au territoire et comment ça peut interroger les modèles. Alors, c'est de gouvernance, mais plutôt de gouvernalité. J'ai bien aimé ce mot-là aussi. Voilà, donc, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, justement, ces espaces du commun ont tendance à s'instaurer, justement, dans... donc, ce sont à la fois des lieux de réappropriation existentielle et organisationnelle, mais qui finalement dresse une nouvelle cartographie alors qu'on peut rappeler justement des tiers-lieux ou des hors-lieux, des tiers-espaces ou des contre-espaces, mais qui en fait naissent de cette coupure, cette disjonction entre les deux premiers modèles. C'est-à-dire que justement, c'est dans ces interstices-là, nous qu'on appelle des zones d'effondrement, et on ne voit pas obligatoirement négativement. Par exemple, là, dans le dossier, bah, par exemple, il y a toutes les expériences autour des friches, donc qui sont aussi les anciens pôles industriels, donc effondrés. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se crée dans ces friches-là et comment ça, donc, il y a par exemple de gens qui travaillent autour des squats, des systèmes squats, etc. Comment ça interroge autrement l'aménagement du territoire par l'occupation de ces espaces, quoi. Et zone d'effondrement, on pense évidemment aussi aux contre-espaces des ZAD, c'est-à-dire bon, des citoyens qui créent justement, qui s'approprient. Alors s'approprie, mais pas au sens propriétaire du terme, effectivement, des espaces du territoire pour poser un enjeu, une problématique publique, en général par rapport à une aberration d'aménagement qui obéit à d'autres logiques, qui soit étatiques, soit productivistes. Et donc, c'est dans ces zones-là d'effondrement que, effectivement, se construisent peut-être des alternatives. C'est comme ça qu'on a été amené justement à travailler dans le Limousin. Alors que là, ce n'est pas une zone d'effondrement, c'est plutôt une forme aussi de délaissement, finalement. Qu'on va parler de la Nouvelle-Aquitaine, quand j'interroge les gens de Bordeaux, le Limousin, c'est des peuplades étrangères. Voilà, bon, pourtant, ils font partie de la même région. Quoi. C'est donc, ils n'ont jamais été. Hein, bon. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement voir que c'est justement dans ces territoires-là. Donc on voit par exemple ce qui se passe sur le plateau des Mille Vaches, c'est très intéressant. Quoi. Tout l'écosystème, les coopératives qui se montent, les formes alternatives, c'est vraiment très intéressant. Là aussi, comme forme patrimoniale, justement, qui est raccrochée à une histoire, ou des formes de résistance comme la Creuse, la Souterraine, etc. Donc, il y a tout un passé voilà, de lutte sociale, etc. Et donc, même si bah, les entreprises s'en vont, effectivement, il y a toujours cette forme de solidarité. Quoi. Et je fais le parallèle avec le mouvement actuel, et ça, on ne l'avait pas prévu, mais finalement, rejoint notre hypothèse de ce qu'on pourrait appeler la création de nouvelles centralités populaires, qu'on voit effectivement le mouvement des Gilets jaunes. Par quoi ils ont commencé? C'est justement par les ronds-points. Et la figure du rond-point est vraiment symbolique, parce qu'elle est vraiment l'articulation du modèle d'aménagement public, d'ailleurs, qu'ils détournent, parce que... On pouvait se poser la question à quoi servent les ronds-points. Ben voilà, là, il y a une utilisation intéressante, c'est qu'ils plantent des cabanes, donc ils créent des écosystèmes dans ces lieux-là d'intersection. Et en même temps, ils empêchent le flux. Et c'est là qu'on voit que la société hyper capitaliste et néolibérale est très fragile. Il suffit en fait d'aller sur les points de flux pour vraiment arrêter le système. Quoi. Et c'est pour ça que la répression d'ailleurs, est aussi violente. D'ailleurs. Et quand, par exemple, ils se mettent devant Amazon, qui est l'archétype justement du flux continu, voilà. C'est-à-dire que avec le gâchis, vous avez vu l'article, hein, c'est-à-dire qu'ils jettent des millions d'objets par an, c'est-à-dire que c'est plus facile de détruire les objets neufs que les recaser, etc., pour garder ce flux continu, tout en exploitant de manière très esclavagiste, évidemment, les salariés, etc. Je crois que qu'on disait... moi, je crois, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est un principe aussi de la recherche-action, qui est justement de miser sur cette intelligence sociale. Je pense qu'il y a une intelligence sociale propre à ces mouvements-là, qui ne sont pas obligatoirement conceptualisées dans un premier temps, mais qui ont déterminé effectivement où sont les lieux de pouvoir et comment effectivement les contrebalancer. Et c'est un peu, et je terminerai là-dessus, c'est un peu justement un peu ce qu'on essaye de développer autour de cette notion de centralité populaire, qui était avant, justement, on parlait des quartiers nord, avant, effectivement, être compris comme des quartiers délaissés, c'était des quartiers d'une très grande richesse, et nous, on est convaincus qu'ils le sont toujours, d'ailleurs, d'une autre manière, mais qui étaient liés au pôle industriel. Hein, donc, ce qu'on appelait, par exemple, en banlieue parisienne, les banlieues rouges, qui étaient vraiment des écosystèmes dans, à la fois, les luttes ouvrières, qui n'étaient pas simplement des luttes pour le salaire, mais qui étaient aussi des luttes pour la dignité, etc., l'émancipation, le rôle des familles, les équipements de territoire, la culture populaire, qui était beaucoup plus indépendante, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui. Donc, tout ça, évidemment, a éclaté à partir des années 80. Mais la question, c'est est-ce que les centralités populaires ont disparu ou pas? Ou est-ce qu'elles se reforment d'une autre manière? Et nous, c'est un peu notre hypothèse, c'est qu'effectivement, et là, c'est une manière pour contrecarrer ce fameux géographe qui a eu beaucoup de succès sur la France périphérique. Voilà. Et nous, on conteste un peu. À la fois, il y a une idée, effectivement, très, très intuitive et très intéressante, et à la fois, on conteste cette notion de périphérie. Les populations délaissées sont toujours envoyées effectivement à la périphérie, à la marge par rapport à une centralité. L'hypothèse, c'est de dire non, il peut aussi avoir de nouvelles centralités qui redéfinissent justement ce rapport centre-périphérie. Et donc ces banlieues populaires excentrées, ces zones rurales délaissées, peuvent être aussi le lieu de nouvelles centralités où il y a une autre manière de faire société. Alors, quelle va être cette autre manière, ça, on n'est pas devin, mais on le voit par rapport au mouvement là, des Gilets jaunes ou d'autres mouvements. Il y a des choses qui peuvent émerger que personne n'a prévues et qui peuvent être très intéressantes et qui vont, à mon avis, être de plus en plus présentes plus on va arriver dans ces zones d'effondrement, parce que de plus en plus, effectivement, il va y avoir des pans entiers qui effectivement sont en train de s'effondrer, puisqu'effectivement, on est dans une forme assez folle voilà, productiviste et de concentration des pouvoirs au niveau économique. Donc voilà un exemple où on a essayé, on est modeste, on ne prétend pas évidemment de changer le monde, mais au moins de réunir ces quinzaines d'expériences à travers l'écriture réflexive, qui est une réappropriation par ces acteurs qui se positionnent comme acteurs-chercheurs en disant ce n'est pas simplement 15 expériences isolées, mais effectivement, elles font lien, ce ne sont pas des îlots, elles font aussi archipel, il y a des liens qui se construisent à travers justement ces notions de pratique des espaces, de réflexivité, c'est-à-dire une capacité à un moment donné de s'inscrire comme un acteur historique dans ce champ social, comme l'était le mouvement ouvrier ou d'autres formes voilà, de mobilisation citoyenne et de production de savoir pour se situer dans la société. Quoi.
Bon, j'étais un peu rapide.
Non, mais c'est parfait, merci. Ah oui.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réflexions ? Oui.
Non, c'est une question très très brève et je voulais vous demander si vous connaissez Christian Verrier, qui est un gars qui a été conducteur de locomotive puis qui est devenu maître de conférences et qui a travaillé pas mal sur les histoires de recherche-action, y compris avec des collectifs de Bruxelles, parce qu'il n'y a pas qu'au Québec qu'il se passe des choses intéressantes, il se passe aussi des trucs en Belgique. Alors je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, alors j'ai vu que vous étiez rattaché à la MSH, enfin Paris Nord, ou en tous les cas vous collaborez à la. Alors le CTHS va s'installer dans le campus Condorcet cette année, donc on aura l'occasion de reprendre l'échange sur les gilets jaunes, tout ça. Il y aurait beaucoup de choses enfin j'aimerais aussi, on pourrait partager, moi je suis élu aussi dans le Loir-et-Cher pour le coup, et donc on pourrait partager sur ce sujet. Mais non, là où je voulais insister, c'est sur un élément que vous avez dit sur la recherche collaborative, où vous avez raison, pour le coup, l'image du savant, de l'universitaire qui demande à des sous-traitants de fournir de la donnée pour ensuite l'utiliser et faire de la science parce qu'il est légitime pour en faire, à la différence de ses sous-traitants qui ne le sont pas. Ça, c'est un modèle dont il faut absolument sortir. Et d'ailleurs, les sous-traitants en question, très rapidement, se retirent de ce type de projet, et à raison. Le muséum, dans les divers projets qu'il a conduits, montrait bien que ça fonctionnait dès lors qu'on créait une communauté avec les citoyens qui participaient à ce type de projet et qui avaient des allers-retours, des va-et-vient, des échanges, des débats. Par contre, il trouvait malgré tout qu'il y avait qu'un chercheur aussi, c'était un chercheur. Et quand on était spécialiste des météorites et qu'on faisait de l'astronomie scientifique, on ne pouvait pas toujours laisser entendre aux citoyens qui se formaient avec des outils pédagogiques que le muséum fournissait, on ne pouvait pas non plus lui mentir et lui laisser entendre qu'à un moment, il pouvait lui-même être un chercheur à l'égal du type qui avait passé 10 ans d'études, etc. Mais l'idée de créer une communauté où il y avait un échange sur les résultats des recherches menées, sur la manière dont le citoyen avait contribué avec les données, l'idée de créer ce lien, finalement, ça, c'était quand même, et moi, c'est ce que je souhaiterais aussi avec mes sociétés savantes, dans un premier temps, qu'elles renouent le contact avec des universitaires, des chercheurs professionnels. Et ensuite, probablement que les problématiques pourront passer du bas vers le haut et non pas seulement du haut vers le bas. Mais
vous avez bien compris, évidemment, c'est pas, la recherche-action ne s'oppose pas au champ savant, bien entendu, mais parfois le champ universitaire se sent remis en cause, mais peut-être parce qu'ils ne font pas leur auto-analyse comme ils le faisaient dans les années 70, de ce qu'est le rôle de l'université aujourd'hui dans la société, et ça, c'est pas notre faute s'ils se sentent remis en cause. Mais pour là où on peut apporter justement des chercheurs qui construisent le savoir à partir de la pratique, donc dans un croisement de savoir, donc il y a le savoir de la pratique, le savoir professionnel et puis le savoir académique. Mais j'ai rencontré des chercheurs justement qui travaillaient, j'intervenais sur les espaces à Grenoble, dans un petit village là, de montagne qui s'appelle Les Adrets, dans un festival, sur les espaces. Et donc, c'était donc quelqu'un qui observait les étoiles, enfin, quelqu'un hyper spécialisé sur l'observatoire, l'observatoire donc, de l'univers, et qui disait, mais vous, moi, je parlais des nos groupes très... Mais je disais, mais vous, vous avez une chance. Lui, il a un savoir, évidemment, incommensurable que moi, je n'aurais jamais. Mais lui, il me disait, il y a des choses que nous, on n'arrive pas à savoir faire dans nos laboratoires, c'est se parler entre nous. On est divisés, on est séparés. Vous, vous arrivez à faire. Moi, j'aimerais faire ce que vous faites. Voilà. Donc, c'est là où, effectivement, il peut y avoir une rencontre. C'est-à-dire, il n'y a pas de transdisciplinarité dans les formes académiques qui est bornée aux logiques disciplinaires. Voilà. Donc, et ça, ils ne savent pas faire. Et même la MSH, dont c'est le boulot, hein, c'est dans le leitmotiv. Ils ne savent pas, obligatoirement, même si on parle de participation, de transdisciplinarité, c'est très compliqué de faire ça. Quoi. Voilà. Je laisse aussi une petite proposition, parce que j'en ai parlé aussi à Jackie. Donc, on essaye de contacter les suites à ce dossier. Là, on est intervenu à la MSH Grenoble, on va le faire à Montpellier, peut-être aussi dans l'Ouest, du côté de Rennes. Donc, s'il y a des MSH qui sont intéressés pour voilà, ouvrir des espaces voilà, de discussion et de croisement, nous, on est preneurs, justement, pour amener ces problématiques et ces questionnements dans les pôles de recherche.
Je pense que la question de la transdisciplinarité, précisément, ça intéresse fortement le territoire, parce qu'on a, sur un territoire, on a tout un tas de problématiques à traiter. C'est l'environnement, c'est l'éducation. Et on a besoin de transdisciplinarité, et effectivement, on ne l'a pas toujours. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Sinon, on va rester là pour aujourd'hui, en vous remerciant les uns et les autres d'avoir participé à cette table ronde. On va procéder à des enregistrements maintenant, donc je laisse Céline un peu, je crois que qui va... Et Julien est là, donc voilà. Donc merci à vous, et puis pour les problèmes de frais, je pense que ça a été vu avec toi, donc... puis enregistrement. Donc on vous enverra un mail avec les liens pour l'enregistrement. Vous pourrez nous dire, voilà. En tous les cas, merci de votre présence.